Bonjour à tous. Salut Occitanien, salut Parkoun, salut Erendil, salut Pépin Camille, salut Gaufre. Non, Parkoun Occitanien n'était pas tout à fait le premier. Enfin, il était le premier, mais Jules, Julot était en veille depuis un moment déjà. Donc Jules, c'est toi qui donnes le top, le go pour la musique ce matin. Vas-y, je t'attends. Jules! Jules le DJ ce matin. C'est Jules qui lance un petit morceau que je vous ai mis de côté qui est plutôt sympa. Hein, pop, 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 pop. Anonyme, on n'était pas loin, on n'était pas loin, mais Jules était super tôt ce matin. Malo, c'est trop tôt. Non, ça, non, c'est trop tôt, Malo. Hop. Ça n'a pas commencé encore. Il faut que tu reviennes dans une demi-heure. Tu demandes à maman.
En une demi-heure?
Ouais, c'est beaucoup trop tôt. Jules, j'attends ton feu vert pour la musique. Jules! Ah, Jules est parti prendre un café. Bon. Nécromancie31, merci pour le sub. Jules, tant qu'il n'y a pas ton go, je ne démarre pas. Ah zut, on n'a pas de chance, Jules est parti prendre un café. Jules, Jules, Jules! Désolé. À tous ceux qui nous rejoignent, j'attends le feu vert de... Jules! Oui, bonjour Jules. Comme j'ai dit que tu étais le premier dans le chat, j'attends ton go. Non, non, il faut le go de Jules. Ah, c'est bon, c'est parti. Ok, musique, on se retrouve dans un instant. À tout de suite et merci d'être déjà là. Bande de beaux gosses, bande de belles gosses. À tout de suite. Pas mal ça.
Yesterday I turned 23. The date didn't mean that much to me. Then I started adding figures up in my head. It seems the cost of dreaming's left me in the red. Because of alcohol, I've shared 16 beds. There's a 5-year reunion hanging over my head. At least 11,000 people think I'm something I'm not. The courage to let them down isn't something I've still got.
C'était pas mal ça, c'était pas mal du tout même. Oh, 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 je suis en train de me le mettre dans ma playlist, excusez-moi. Attendez, pardon, je suis en train de rajouter ça à ma playlist pour quand je vais reprendre la course à pied. Pas mal du tout. Voilà, ça s'appelle, comment ça s'appelle, Yumi and... Là, on se rajoute à la playlist rock. Et hop, voilà. Bon, pas mal du tout ça, hop, playlist rock. Comment ça va, bande d'amis, bande de belles personnes. Oui, la suite de l'enquête sur les Chris Prolls, ça y est, j'ai trouvé le coupable. On va en parler dans un instant. Vous allez bien, vous? Ouais. Ouais, ouais. Ça, je vois beaucoup de gens qui se saluent d'habitude, qui disent bonjour, Occitanien, comment ça va? Bonjour, qui est encore Petit Dragon Vert de Rage, par exemple. Alors, j'adore ça, c'est trop cool quand vous vous retrouvez le matin, j'ai rien besoin de faire, vous êtes là, vous vous parlez, vous prenez des nouvelles les uns des autres, notamment en cette période de canicule. On n'est pas bien, là, on va rester au frais, tous ensemble. Les Lectures d'Éden, merci pour ce gentil troisième mois d'abonnement. Habitué parmi les habitués, Lost in a Maze, plus que 31 dodos et j'aurai le petit sucre dans le mug, 8 mois d'abonnement. Merci Lost in a Maze et j'ai remercié Necromancie 31 et Sébaphile à l'instant pour un 10e mois d'abonnement. 39 degrés en Normandie. Waouh, waouh. Bon, alors, on va commencer par le petit, le mini sommaire teasing en image. C'est reparti pour 2-3 minutes de musique avec toutes les unes rapidement, comme ça, sans commentaire, avant de les développer. Tout à l'heure, le pré-sommaire, quel est le du 13 exactement, c'est ce qu'on a annoncé il y a quelques jours. Vous êtes prêts? Allez, je vous cale ça. Merci Rom Rom Save ou Rom Rom SAV, je ne sais pas, merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Hop! Vous êtes prêts? Allez. D'abord, est-ce que la musique va bien? Oh, c'est mignon. Oh, attendez, attendez, hier dans les rues de quelle ville de Corse, je ne vais pas vous dire, pour ne pas vous dire précisément où je suis, pour vous inviter pas à l'apéritif, j'ai rencontré un charmant garçon dans les rues de donc cette commune de Corse avec un joli t-shirt, je vous le donne en mille, The Event. En fait, c'est en deux temps, mon épouse me dit « Ah, j'ai croisé un jeune homme qui avait le t-shirt The Event, c'est dommage et tout. » Je dis « Ah zut, le meilleur t-shirt ever !» Et 10 minutes plus tard, qui je croise, le même jeune homme avec le même t-shirt The Event, on a fait une petite photo. Et manifestement, il est là puisque je vois un pseudo, Roi Falcario, qui écrit, j'adore cette vie. Bonjour Samuel, merci encore d'avoir sacrifié de votre temps de vacances. Tu peux me tutoyer pour la photo d'hier, je pense que c'est toi. Je pense que tu m'as vu magnifique en short recouvert de crème solaire. Je ne sais pas ce qu'a donné la photo. Mais merci en tout cas, c'était super cool de te croiser. Y67, merci pour ton prime. Vous êtes cool, vous êtes vraiment cool, c'est agréable. Qu'est-ce que vaut cette musique? C'est pas mal, c'est ok, c'est des choses que j'aime. Donc ok, on se met ça, 2-3 minutes de musique avec la une de vos journaux, celle qu'on va lire, qu'on va évoquer, sur lesquelles on va échanger ensemble ce matin. C'est la matinée Etienne, Yoshi Forever 2609, merci beaucoup pour ce 5e mois d'abonnement et ton gentil message. Le temps que je passe avec vous savez, c'est énormément de plaisir pour moi, ne me remerciez pas pour ça, c'est vraiment très très cool. Let's go! Oh! On se l'écoute jusqu'au bout et ce petit morceau est quand même trop bien. Et on démarre le sommaire juste après. Merci d'être là. Pas mal ça, hein. J'ai envie de me la remettre pour la pause café celle-là. Pas mal. Allez, je me la remets pour la pause café tout à l'heure. Comment ça va, vous? Je vous lis parce que ça me met de bonne humeur. Je remercie encore tous les subs de bon matin de tout à l'heure. Le dernier de Yoshi Forever 2609 ou encore de Y67. Je salue Annie qui est avec nous. Annie, merci, je t'ai vu. Merci d'être là. Après, si je l'ai bien compris, le petit café du matin. Je vous lis un petit peu parce que j'ai vu plein de belles choses. J'espère que vous arrivez tous à avoir un peu de fraîcheur. Amélie, merci de te soucier des autres en ces temps de canicule. Il faut faire attention à soi et puis bien sûr aux plus fragiles, ceux qui nous entourent. Je vais me bouger jusqu'à ma machine à café. Ça va être ton meilleur move de la journée, Mam Guanag. Merci d'être là aussi. Salut Samuel. Ah merde, Dani est mort. Ah merde, Dani est morte. Nico Manga 95 me dit que Dani, la chanteuse, ah zut, et comédienne Dani est décédée. Ah, oh, ah bah zut, moi qui voulais partir sur des bonnes ondes. Voilà, une belle artiste, une belle personne qui est partie. Ah zut. Ok, et bah vous savez quoi, on commencera la revue de presse avec ça dans un instant. Merci beaucoup, Nico Manga. Parce que tout à l'heure, quelqu'un évoquait Dani, j'ai pas compris tout de suite. Ok, d'accord. Merci Nico Manga pour l'info. L'info augmentée, je vous donne des infos, vous m'en donnez aussi. Le résultat, il est top. Fmelame, j'espère que je prononce bien. Merci pour le Prime. Il y a Kemusic30 qui a fait une Samuel Etienne. Me dis-tu couché à 21h30, levé 1h du mat. Ouais, c'est moi ça. Je ne sais pas officiellement comment tu fais tous les jours. On s'habitue. On parle de canicule, on parle d'incendie. On va beaucoup en parler ce matin. C'est à la une de vos quotidiens. Hazard01 nous dit « Mes parents sont sur Arcachon en ce moment. Ils m'ont dit hier avoir senti pour la première fois l'odeur de la fumée. » Des incendies, du feu. Mon téléphone est tellement chaud que j'ai du mal à écrire, me dit Anonyme31. Je vais suivre la revue de presse sur la télé, je crois. Mais le chat y est trop petit. Je vois quelqu'un t'a donné dans le un peu en dessous des conseils pour grossir le chat sur ta télé. Ah. Mm-hmm. Voilà. Je suis content de ce petit sommaire en image qu'on fait là. Alors il y a une personne hier, qui disait « Écoute, moi Samuel, je suis aveugle. » Et donc c'est vrai que depuis que j'ai lancé ça, j'ai une vraie pensée pour les aveugles et malvoyants. Hein, avec mon petit sommaire en image et en musique, sans commentaire. Donc sachez que voilà, je constate bien la limite de l'exercice. Et peut-être qu'effectivement des aveugles et des malvoyants ont pris l'habitude d'écouter ce stream, parce que je parle beaucoup, mais voilà, c'est une toute petite pause musicale et sachez que ça reprend l'info juste après. En tout cas, merci de l'avoir signalé. Ah, c'est chaud, Dani, quand même. Chacun y va. Ah, oh, et ça. Ouais, comme un boomerang, notamment, ouais. Oui, pour ceux qui connaissent pas Dani, on va se pencher sur elle. On va essayer de trouver un joli article qui lui rend hommage en ce mardi matin. Elle a notamment chanté en 2003 avec Étienne Daho Comme un boomerang. Magnifique chanson. Ouais. Ouais. On va voir ça. On commence par avec ça. Ok. Ok. Merci Silver Pingouin. Silver Pingouin. Je ne sais pas d'où vous trouvez cette science des pseudos. Le mien, il est pas terrible, hein, mon pseudo sur Twitch. Samuel Etienne. On aurait pu faire mieux. Bon, après, j'ai des pseudos un peu plus officieux qui sont plus sympas, peut-être. Mais Silver Pingouin, c'est super. Merci pour ton prime. Alors, regardez, allons chercher un article qui serait un petit peu déjà fourni, écrit sur la mort de la chanteuse et comédienne Dani, 77 ans. Alors, je cherche une source que j'estime un peu carré, quoi. Voilà. Alors, il y a très peu d'articles pour l'instant. Hein. Ah, c'est fou, ça. Est-ce que du côté de France Info, il y aurait déjà un papier? Ou du Figaro? Quelqu'un a vu des articles bien faits, déjà? On me dit que du côté du Parisien, il y a déjà un article. Je l'ai pas, là. Allons voir carrément sur le site du Parisien. Mais alors, il y a des sites d'infos qui sont plus ou moins bien faits. Celui du Parisien, c'est pas le quotidien était vraiment excellent. Mais alors, ça fait longtemps que je suis pas allé sur le site, mais le site, je le trouve pas terrible. Bon, bah manifestement, il a été un peu revisité. Il est beaucoup mieux qu'avant. Ok, ouais, c'est pas mal. Allons voir. Premier hommage ce matin. En attendant d'autres hommages demain, je suis quasiment sûr que dans Le Monde, il y aura un papier tout à l'heure cet après-midi. Et alors sûr, mais sûr à 2000% que Libération va écrire un très bel article dans son édition de demain. Article que vous pourrez trouver peut-être en ligne dans les prochaines heures. Mais demain, c'est sûr qu'on rendra hommage avec Libération, mais ça j'en suis sûr à 2000% à la chanteuse Dani. Pour ceux qui ne la connaissent pas, quelques infos. La chanteuse Dani donc, est morte à l'âge de 77 ans. Artiste culte dans les années 60 et puis oubliée. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Elle était revenue sur le devant de la scène au début des années 2000 avec cette chanson « Comme un boomerang » en duo avec Étienne Daho. Le manager de l'artiste a confirmé l'info ce matin, le décès de la chanteuse et artiste. L'artiste est fait connaître au milieu des années 60, d'abord comme mannequin. Elle a eu mille vies, hein, Dani, avant d'enchaîner ensuite les petits rôles au cinéma, de se tourner vers la chanson. Et en 2001, donc, elle était revenue sur le devant de la scène avec Étienne Daho, « Comme un boomerang ». Je sais, il y a des MCA, mais l'hommage à cette belle personne est plus important. Petit extrait de la chanson. Sans la pub, de préférence.
Je sens des bombes de bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. Les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire qu'à la bringue, et ton amour m'ont épuisé. Je sens des bombes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter, si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher.
Allez, petite, on n'écoute pas plus parce que vous savez que la musique, les droits sont encadrés sur Twitch, DMCA, mais tant pis. Hein, il fallait prendre le risque parce qu'il fallait rendre cet hommage. On me signale qu'il y a un article du Parisien, de Libération en plus, on va aller le voir tout à l'heure. Même tout de suite, regardez. Pour ce premier hommage à Dani, et merci à ceux qui m'ont signalé dans le chat tout à l'heure, notamment Nick Koumanga, si ma mémoire est bonne, l'annonce de cette triste nouvelle, donc le décès de la chanteuse Dani à l'âge de 77 ans. On est sur le site de Libération, comme ça vous voyez un petit peu comment je fouille les infos. Alors vous avez, j'ai le réflexe d'aller sur des médias que je connais, dont je connais à peu près la rigueur de travail. Je ne vois pas l'article sur Dani pour l'instant. Les moteurs de recherche sur les journaux ne sont pas toujours très très au point d'ailleurs. Voilà, comme le montre d'ailleurs cette recherche. Hop. Peut-être le fil info de l'IB, mais j'y crois pas trop. Hop. Si, voilà. Quelle belle photo. Waouh, là vous l'avez vu il y a quelques années. Donc cette reprise, je crois, de Serge Gainsbourg comme un boomerang avec Étienne Dao, ces deux voix qui s'étaient magnifiquement trouvées. Et regardez, là, on l'a un peu plus jeune, la chanteuse Dani. Libération, même sur un article comme ça, vite posté sur Internet, qui soigne son iconographie, son choix de photo. Ça, c'est une des signatures de Libération. Nul doute que Libération choisira une très très belle photo demain pour illustrer cette nouvelle. Qu'est-ce que Libération et le temps d'écrire, hop, sur Dani. D'abord, les raisons du décès, des suites d'un malaise. C'est ce qu'indique son manager. On en sait un tout petit peu plus que dans l'article du Parisien, qui, Libération, rappelle qu'elle fut donc mannequin, mais aussi actrice, meneuse de revue. Le comeback avec Comme un boomerang, on en a parlé. Donc, elle est décédée dans la région de Tours, là où elle habitait, des suites d'un malaise. Elle venait de finir la tournée, donc elle était toujours sur les planches d'Annie, de son dernier album, Horizon Doré. Et elle achevait déjà la préparation d'un nouvel album artiste qui s'en va, donc, alors qu'elle était toujours en pleine création. Je vous propose peut-être d'aller voir tout simplement la fiche Wikipédia de Dani. Parfois, elles sont très très bien faites. Pour en savoir peut-être un peu plus sur sa carrière. Voilà. De son vrai nom, Daniel Grohl, voilà, né en 1944 à Castres. Voilà. Aîné de trois enfants, Daniel Grohl, on va l'appeler Dani, hein, né d'un père cordonnier, d'une mère vendeuse de chaussures d'origine catalane. À 19 ans, elle quitte Perpignan, elle est de cette région, pour suivre les écoles, les cours de l'école des Beaux-Arts à Paris. Elle arrive en 63 à Paris, engagée au journal Jour de France pour y faire de photos, entreprend finalement une carrière de mannequin. Elle fréquente les soirées à la mode. Ouais, elle a raconté, hein, qu'elle avait vécu, qu'elle avait parfois brûlé la vie par les deux bouts. Les soirées à la mode, au Café de Flore, chez Castel, chez Publicis. Elle y rencontre Jimi Hendrix. Elle pose pour Jacques Seguela. Elle se met en couple avec Benjamin Augier, qui est un photographe. Elle débute au cinéma dans les petits rôles en 64. Elle passe dans des clips. Voilà. Et puis elle passe en 66, tournant une audition chez Pathé Marconi, la maison de disques, et sort un premier disque intitulé Garçon manqué. Premier, 45 tours, le début d'une abondante discographie. En 1968, elle se fait remarquer avec le titre « Papa vient d'épouser la bonne ». Voilà, en 70, elle a un prix, le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros, pour son premier album. Hein, c'est drôle. En 74, elle doit représenter la France au concours Eurovision avec la chanson « La vie à 25 ans ». Mais la télévision française décide de retirer sa candidature et de ne pas diffuser le concours prévu le 6 avril, jour de deux nationales du président Georges Pompidou. Voilà. Première tournée de Claude François. Au cinéma, elle tourne aussi carrière d'actrice avec les plus grands, Vadim, Lautner, Truffaut, Chabrol, Molinaro. Voilà, donc là, il y a tout un paragraphe sur sa filmographie. Elle a tourné aussi pour la télévision. Voilà, je vous parlais d'une artiste qui avait reconnu avoir brûlé la vie par les deux bouts. Le passage ici fait mention, allusion, s'étant retirée dans sa maison du Vaucluse. Elle publie en 1987 le livre « Drogue, la galère », où elle raconte ses années noires et sa résurrection. Elle a réussi à s'en sortir. Tout au long de sa carrière, Dani n'apparaît que rarement sur la scène au cinéma. Elle continue à travailler dans sa boutique de fleurs, puisqu'elle était devenue fleuriste au nom de la rose. Wow. Et puis donc après ces 1000 vies déjà, elle en invente une nouvelle en 2001. Elle revient sur le devant de la scène, et d'où l'importance de l'extrait qu'on a passé à l'instant, grâce à la ténacité de qui ? D'Étienne Dao, que j'adore, qui produit et chante avec elle comme un boomerang, écrit pour elle en 75 par Serge Gainsbourg. Donc chanson de Serge Gainsbourg, mais qui avait été écrite pour Dani, mais restée jusque-là inédite. Gros succès de l'année 2001, je pense que certains connaissaient la chanson. Disque d'argent, classé numéro 6 des ventes en France, qui permet à Dani de relancer son activité discographique. Elle a travaillé ensuite avec Alain Chamfort. Voilà, et puis elle ressort des albums. Voilà. Une autobiographie, La nuit ne dure pas en 2016. Voilà. Et la fiche Wikipédia qui donne cette dernière information sur la vie de Dani, de cet artiste, de cette femme. Elle meurt dans la nuit du 18 au 19 juillet 2022, à l'âge de 77 ans. C'était donc il y a quelques heures. Merci à tous ceux qui m'ont signalé dans le chat, dans ce début de stream, la mort de Dani, puisque ici, on lit les informations dans les journaux, puisque c'est mon choix. Pour moi, c'est l'un des meilleurs supports médiatiques qui soit pour traiter l'actualité, la presse écrite, notamment quotidienne nationale. Mais évidemment, cette presse écrite nationale, dans ses versions papier, ne peut pas prendre en compte les derniers événements parus et produits qui se sont produits ces dernières heures. Donc ça, on l'aura dans les journaux de demain, notamment, je suis sûr, avec un très bel article de Libération, peut-être dans Le Monde aussi. Mais grâce à la réactivité de ces mêmes journaux, on a pu lire un premier article du Parisien et de Libération. Voilà. Waouh. C'est triste quand même. C'est vraiment une très belle personne. Et puis une histoire assez étonnante. Ouais. Tout le monde connaissait comme un boomerang. Sans âme, connaissait pas du tout. Belle voix, incroyable. Femme incroyable. Ouais. Alors, malaise lié à quoi, on ne sait pas. Hein. Ducati et Macaron posent la question, par exemple, malaise lié à la canicule, c'est une bonne question. C'est une bonne question. France Info confirme cette information. Elle serait décédée des suites d'un malaise. Peut-être, pourquoi pas. Peut-être qu'on le saura si à un moment, cette info, vous l'avez, on l'évoquera. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Merci en tout cas. Alors, et grâce à votre... Grâce à votre veille, voilà, on est sur les articles des journaux, mais aussi sur les dernières infos qui sortent, puisque régulièrement, on est en train de parler de l'actualité telle qu'elle est traitée dans les articles, et puis vous me signalez les dernières informations qui tombent, que je vais vérifier bien sûr systématiquement, et parfois on les évoque justement. On parlait d'une chanson tout à l'heure de Dani qui s'appelait Papa vient d'épouser la bonne. Ça, moi je ne l'ai pas, c'est vrai que c'est. Attendez. Le titre est assez étonnant. Je suis en train de vous la caler. Papa vient d'épouser la bonne. MMG connaît et adore aussi. Dani. Solemikova, on vient de commencer. On rend hommage à Dani, la chanteuse qui vient de décéder. Alors, c'est là.
Papa vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. C'est une gentille petite bretonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. Toute la famille, tante Clara, tante Lison, oncle Camille, ne viennent plus à la maison, car ça personne lui pardonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit...
mon petit papa. Un autre style. Personnellement, je suis un peu plus fan de Comme un boomerang. Mais elle a eu une carrière tellement longue que là, manifestement, épouser différents styles. Jassu Gandhi, on dirait du Chantal Goya. Je pense qu'au niveau de peut-être de la musique, peut-être, mais au niveau des paroles, je pense que si on va plus loin dans la chanson, on ne sera pas sur du Chantal Goya, connaissant un petit peu l'œuvre de Dani. En tout cas, merci les amis d'être avec nous. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit sommaire maintenant? Voilà, on vient de démarrer. Hein, pour ceux qui viennent seulement de nous rejoindre, je remercie AFA Vresse pour ce gentil deuxième mois d'abonnement et le non moins gentil message. C'est trop de compliments, mais je les accepte avec plaisir. Donc, on a fait un mini teasing de toutes les unes qu'on va aborder maintenant. On a fait ça en musique. Et justement, en parlant de musique, on a appris, grâce à vous dans le chat, le décès il y a quelques heures la nuit dernière de cette grande chanteuse qui est Dani. Et maintenant, je vous propose un sommaire, le sommaire des articles que nous allons développer, ce qui permet à ceux qui sont là pour 15-20 minutes et qui ne peuvent pas rester 2h30, 3h, la durée moyenne de cette revue de presse, et bien d'avoir l'essentiel de l'actualité. Vous êtes dans la matinée, Étienne, on lit les journaux du matin, mais on les lit ensemble parce que c'est plus sympa comme ça. Vous êtes prêts? On y va. La une du Monde, d'abord, que j'ai lue ce matin, mais le journal qui sort l'après-midi. Pouvoir d'achat, l'Assemblée sous tension. Donc c'est toutes les interrogations, les questionnements, le suspense politique quant à ce vote ou non de ce texte sur le pouvoir d'achat pour soutenir le pouvoir d'achat des Français qui est présenté par le gouvernement avec une majorité relative à l'Assemblée. Forcément, c'est un peu plus compliqué. On va pas trop en parler ce matin parce qu'on en a beaucoup parlé hier. J'attends de voir ce qui se passe à l'Assemblée. Par contre, ces incendies, notamment en Gironde, ça, on va en parler longuement parce que c'est à la une de vos quotidiens. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Il faut aussi s'interroger pourquoi ces incendies, pourquoi se produisent-ils, pourquoi sont-ils plus importants qu'avant, pourquoi on n'arrive pas à les éteindre. En Gironde, il est toujours en cours. Est-ce que c'est un problème de moyens, le lien avec le réchauffement climatique? Toutes ces questions, bien sûr, elles sont dans vos journaux. Ce feu est un monstre, dit un témoin à la une du Monde. Voici l'article qu'on lira pour commencer tout à l'heure. Le Parisien se penche aussi sur ces incendies en Gironde avec ces vacanciers pris au piège, ces vacanciers qui parfois sont contraints tout simplement d'arrêter leurs vacances, qui retournent là d'où ils viennent. Parfois, ils viennent d'arriver, ils repartent aussitôt. 16 000 personnes évacuées rien que pour la journée de lundi. Et puis, il y a plusieurs campings du côté de la dune du Pila qui ont tout simplement flambé. L'été vire au cauchemar, notamment pour les vacanciers. De nombreux vacanciers font demi-tour, ouais, nous dit le Parisien. Et puis, une interview de Mathieu Valbuena, ouais, le footballeur, l'international français. Pourquoi ? Parce qu'il est propriétaire d'un... Ah. C'est Malo. Tu veux faire maintenant, Malo ?
Oui.
Mais les gens sont pas encore arrivés. On est juste au sommaire. Tu veux pas revenir tout à l'heure quand il y aura encore plus de gens ? Ce sera mieux, non ? Ouais. Malo nous propose un quiz Pokémon. C'est mon grand de bientôt 6 ans.
Rien qui est impatient de voir. En fait, moi et Solal, en fait, on protège notre bateau pirate.
D'accord.
En fait, on a tout ça de l'eau.
Merci. Malo, est-ce que tu veux revenir un tout petit peu plus tard, juste après le sommaire, pour la chronique Pokémon ? Parce que, d'accord ?
Non.
Sinon,
faudra attendre au moins 13 minutes.
Oui, 13 minutes, c'est bien, Malo, parce que là, c'est un petit peu trop tôt. On fait le sommaire, d'accord ? Tout le monde te dit bonjour. Je te dis à tout à l'heure.
Bonjour à tout le monde.
T'es gentil.
À tout à l'heure. Je vous dirai bonjour à ceux qui ne sont pas là.
Donc, Malo vient de nous dire bonjour à tout le monde. Et puis tout à l'heure, quand je reviendrai, nous dit Malo, je dirai bonjour à ceux qui ne sont pas là. Bien joué. Il est en train de devenir un meilleur animateur que moi, ce garçon. Donc, interview de Mathieu Valbuena dans Le Parisien. Pourquoi ? Parce que le footballeur international français est propriétaire d'un camping du côté de la dune du Pila qui vient de flamber, tout simplement. Rowarnak, merci pour ton prime, ton abonnement. À l'instant, quelques photos. On sera au cœur de la fournaise avec les pompiers, toujours avec Le Parisien. Il y a des images qui sont extrêmement fortes. Hommage et soutien ce matin à tous les soldats du feu, professionnels et volontaires qui sont engagés sur le front des incendies au risque de leur vie. Il y a les incendies, il y a la canicule. À Brest, on se croirait comme en Provence, nous racontent des témoins dans Le Parisien. Donc un record de chaleur datant de 1949 qui a été battu à Brest. Et attention, parce que notamment en Bretagne et sur le sud-ouest, les températures vont baisser, mais brutalement, très brutalement, hein, plus de 10 degrés de chute. Et les médecins disent attention, parce que ça aussi c'est dangereux. Passer de 40 à 30 ou 25, et ben pour l'organisme, ça n'est pas rien. Donc je vous mettrai en garde là-dessus. Peut-être que vous pouvez sensibiliser vos proches les plus fragiles là-dessus. L'horoscope, on en rigolera tout à l'heure ensemble, mais c'est pas pour tout de suite le concours de l'horoscope. Libération. Une, devinez sur quoi ? Sur les incendies. L'impression d'être dans un film catastrophe. Hazard 01, merci pour l'abonnement que tu viens d'offrir à la commu. Donc on lira Libé là-dessus. Angoisse, c'est le titre de l'édito d'Alexandra Schwarzbrod. Et puis on se posera notamment la question des moyens. Est-ce que les moyens de lutte contre le feu en France sont suffisants ? Notamment les moyens aériens avec les Canadair et les Dash. Il y a débat là-dessus. Libération fait le point. Et puis ici, avec cet article que je passe tout de suite, le nouveau jeu de Libération, que je trouve très sympa. Libération, pendant 29 jours, va publier chaque jour un portrait déjà publié dans le passé d'une personnalité, mais en ayant enlevé le nom de la personne dont c'est le portrait et les indices les plus importants. Et il s'agit de trouver le nom de la personnalité, sachant que le nom n'est révélé que le lendemain. Je trouve que Je trouve que le jeu est hyper fantastique. Et hyper fantastique, c'est, je pense que c'est une expression qui date d'à peu près de 1923. Je trouve que le jeu est vraiment hyper fantastique. Ouais, Samuel, reprends du café. Donc le jeu est vraiment sympa. Hier, on a joué, il fallait trouver...
C'est dans combien de minutes ?
Malo, pas tout de suite, Malo. Il faut que je finisse...
Minutes, c'est ça ?
Oui, je t'appelle. Après le sommaire. Il est trop chaud pour vous faire le... Hier, c'était Brigitte Fontaine, exactement. Brigitte Fontaine. Et aujourd'hui, je vous lirai l'article, mais en le cachant, parce que certains ont trouvé vraiment très très tôt hier. Et je pense que je les soupçonne d'avoir un petit peu anticipé sur la lecture. Et celui ou celle qui trouvera le premier, aura toute mon estime. C'est ce qu'on gagne ici. J'ai lu l'opinion pour vous. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Vous savez que la majorité très 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 relative du président Macron, du camp de la Macronie à l'Assemblée pose énormément de questions, puisque c'est un peu une grande première sous la Ve République. Où est réellement le centre du pouvoir aujourd'hui ? Est-ce qu'il est toujours du côté de l'exécutif ? La main est-elle au Parlement ? Et on a un article de l'Opinion qui est passionnant sur le fait que le Sénat va reprendre du poil de la bête. Et il n'est pas impossible, selon l'analyse de l'Opinion, que durant cette mandature, ces 5 années à l'Assemblée, enfin au Parlement, sauf dissolution de l'Assemblée, eh bien ce soit le Sénat qui, pour une fois, eh bien retrouve la main et puisse se poser en arbitre sur pas mal de projets de loi. C'est assez intéressant. Processus législatif, le Sénat désormais en position de force. Merci à l'Opinion pour cette analyse que je n'ai vue nulle part ailleurs. On fera un petit point sur le Tour de France avec ce joli duel entre l'actuel maillot jaune, le Danois Jonas Vingegaard, et l'ultra favori Tadej Pogacar, qui semble un petit peu surpris par les performances de son jeune rival, sachant qu'ils sont jeunes tous les deux. Duel au sommet, les Pyrénées arrivent vivement samedi. Ça, c'est le quart de finale, c'est important, de l'équipe de France féminine de foot dans l'Euro féminin de foot. La phase de poule s'est plutôt bien passée. 2 victoires et puis un match nul contre l'Islande, c'était hier soir. Les Françaises étaient de toute façon qualifiées avant ce match-là pour les quarts qui auront lieu donc samedi. On leur souhaite le meilleur. Qu'est-ce que ce match contre l'Islande donne en termes d'enseignement au quart de finale qui sera contre les Pays-Bas ? Est-ce que les Françaises sont favorites ou pas ? On en parlera tout à l'heure ensemble. Match volé par l'arbitre, dit défécateur officiel. Alors il y a des polémiques effectivement sur un but qui a été refusé pour les Françaises. Et polémique aussi peut-être même sur le but des Islandaises. Ok, en tout cas, Défécateur qui est avec nous, merci à toi, est persuadé que ce match, les Françaises auraient dû le gagner. Tiam 129, merci beaucoup, je te rends ton hello, merci pour le 9e mois d'abonnement. Continuons. Le combat jusqu'au bout, c'est l'article sur Tour de France. La Croix consacre également sa une à la lutte contre les incendies et nous dit que c'est l'affaire de tous. Que tous... on peut, à notre niveau, en tout cas pour ceux qui vivent ou qui passent dans la région, faire un petit quelque chose pour protéger nos forêts. Donc on n'est pas dans le défaitisme absolu. La Croix dit non, il y a des solutions. Il y a des solutions qu'on peut mettre en œuvre, y compris nous, les citoyens, pour participer à la réduction de ce risque des feux de forêt. Oui, ouais, il y a Wookie Bell, qui nous regarde petit depuis la Belgique, qui nous dit qualification historique des Belges. Première qualification, on les félicite, des joueuses belges pour un quart de finale dans cette compétition, après la victoire 1-0 sur l'Italie. Je vois que nos amis belges qui sont avec nous en sont bien heureux. Défécateur précise, oui, il y avait péno, mais le deuxième but refusé, c'est très discutable. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'était surtout sur le deuxième but refusé par l'arbitre. Bah ouais, ok. Ouais, genre d'arrêter d'être des connards à jeter ses mégots partout. Voilà, par exemple. Exactement, ça, on peut faire ça. Contre les feux de forêt, l'urgence, c'est à la prévention. C'est donc le dossier de la Croix ce matin. On verra ce que nous propose la Croix. Et alors, j'ai trouvé un article passionnant. Par choix ou nécessité, ils glanent dans les poubelles. Seuls ou en collectif, de nombreuses personnes, en France notamment, récupèrent de la nourriture dans les poubelles des commerces par nécessité économique ou par rejet de la société de consommation. À Grenoble, la fratrie des glaneurs solidaires organise des collectes tous les lundis soirs. Quelqu'un me dit, à l'instant, c'est qui ? Je n'ai pas vu ton pseudo. Mme Gonac dit, c'est pas nouveau ça ? Oui, mais ça prend de l'ampleur. Et l'article est vraiment intéressant. L'humanité, la parole à cette maman voilà, qui refuse que son fils n'ait pas de vacances, donc qui fait des sacrifices pour que son fils puisse, malgré sa condition financière délicate, partir quelques jours en vacances. Et Luma qui en profite pour surtout faire un dossier sur tous ces Français exclus des vacances. Ça aussi, certains me diront peut-être c'est pas nouveau. Eh bien, c'est pas une raison pour s'y habituer. Rattrapé par la hausse des prix, notamment des millions de Français ne partiront pas cet été, avec des aides qui restent insuffisantes pour les plus modestes, très chères vacances. 4 Français sur 10, c'est énorme, ne partent pas en vacances. On en parlera avec Luma. Voici le dossier quand l'inflation met à mal le droit aux vacances, parce que Luma nous rappelle que selon la loi en France, oui, partir en vacances est un droit qui a été reconnu par la loi, un droit qui n'est pas appliqué, notamment parce que les vacances en termes de mélange social, d'expérience, l'article évoque à un moment, ben, est considéré comme un bien pour la société, et ce serait bien que tout le monde puisse y accéder, nous rappelle ce matin l'humanité. Je vois beaucoup de messages dans le chat. Non, on ne parle pas de congé. Hein. Non, c'est les vacances. C'est vraiment les vacances qui sont... On en parlera. C'est quoi ce message Alors, parfois, je vois des messages un peu bizarres et je me dis, est-ce que la personne a vrillé, a dérapé sur son clavier ou est coutumière du fait ? Sexy Ward, je me permets de revenir sur tes messages précédents pour voir. Oula. 3 bannissements déjà ? Oh, c'est pas bon, ça. Sachez qu'on a aussi accès à votre historique. Donc parfois, quand je vois des messages un peu bizarres, moi, j'ai pas le ban facile, mais je vais quand même voir les messages pour voir si... En gros, le niquez-vous, je ne l'ai pas trouvé très, très chic. En fait, ce n'est pas tellement le ton qu'on utilise ici pour échanger les uns par rapport aux autres. On peut développer plein d'idées. J'adore les débats entre les gens qui ne sont pas d'accord ici. Vous avec moi avec vous entre vous, mais il faut que ce soit correctement exprimé. Et là, Sexy Ward, au niveau de ton phrasé, t'es quand même un petit peu agressif. Hein. Dommage, parce que je vois que tu t'intéresses à l'actu. Ouais. Mais c'est très cash quand même. Hein. Ouais. Et c'est dommage, parce qu'on voit ton vrai intérêt pour l'actu, quoi. Mais peut-être, ouais, peut-être, voilà. Ouais, rien qui mérite le ban pour moi. Mais, ouais. Oui, voilà, j'ai... En fait, tu exprimes tes idées de façon un petit peu cash, si je puis me permettre. Donc peut-être, est-ce que tu peux... Je pense que c'est bien pour nous, parce que moi, je crois à des débats riches et animés et vifs, mais apaisés quand même de façon un peu chill. Et peut-être que tu peux, au niveau de ton phrasé, être aussi passionné et à fond dans le débat, mais peut-être moins de niquez-vous, tout ça. Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Pas de ban pour ça. On peut en parler, mais en tout cas, dans tes messages, je vois qu'il y a une envie d'échanger avec les autres, de débattre, et un vrai intérêt pour l'actu. Donc, pour moi, il y a R. Peut-être un petit effort peut-être, sur moins de niquez-vous, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? On continue le sommaire? Ah. Merci l'humanité, encore ce matin, pour ce dossier sur les traquances. Bon, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Les traquances. Traquances? C'est quoi les traquances? Première fois, j'ai adoré ce dossier. À votre avis, c'est quoi les traquances? Je ne connais pas, mais Kalel Dutrèche, je vais t'expliquer. Traquances. Travail, vacances, merci, Gwenegan 79. Oui, c'est ça. C'est un néologisme. Travail, vacances, traquances. Alors le mot n'est pas encore entré dans le dictionnaire, mais parions ce matin que peut-être qu'il va rentrer bientôt dans le dico. Voilà. Non, c'est pas trac plus vacances, c'est travail plus vacances. Et donc, l'été sont déconnectés, les Français seraient de plus en plus nombreux à partir avec du travail en vacances, notamment avec les ordinateurs, à ne pas se déconnecter du travail. Alors moi, je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas les gens qui partent avec un PC, un écran, une table de mixage, un autre ordinateur, la tablette. Là, franchement, moi, je suis très ouvert, hein, très compréhensif. Alors, chacun vit sa vie comme il l'entend. Moi, je ne juge jamais. Vous connaissez ma philosophie là-dessus. Il n'y a pas de bon chemin de vie. Chacun doit trouver le sien. Voilà. Plus ou moins du travail, plus ou moins de la relation aux autres, plus ou moins du sport, enfin ce qu'on veut. Quoi. Voilà. Chacun trouver son petit équilibre. Mais les gens qui partent en vacances avec un PC, des câbles de partout, la multiprise, la carte d'acquisition graphique, la table de mixage, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends. Ça, je ne veux pas comprendre. Je ne veux même pas faire l'effort. Les vacances, c'est important, les vacances. Les vacances, c'est sacré. Donc ça, si vous m'en trouvez un, Si vous m'en trouvez un comme ça, vous me le signalez, vous me le dénoncez et je pars en croisade contre ce type de profil. Parce que ça, je vais vous dire, ça, ce sont des gens qui n'ont rien compris à la vie. Ça, ce sont des gens qui n'ont rien compris à la vie. Je vous le dis comme je le pense. Voilà. Donc vous me le signalez. Hein. Donc certains m'ont quand même fait remarquer, et je remercie les membres de la team premier degré d'être là ce matin parce qu'on a besoin de vous. Mais Samuel, mais toi tu es devant des écrans là. Merci. Merci, ça j'aime. Ozzy Mandias FG, 11e mois d'abonnement. Ça claque. Après, moi c'est pas vraiment du travail. Hein. Moi ça fait. J'ai commencé à travailler en 1994. Allez, on va faire un calcul parce que je suis perdu, je suis trop vieux. Voilà, ça fait 28 ans que je travaille. Voilà, je suis loin de la retraite pourtant, de Dieu. C'est pas vraiment du boulot en fait. Hein. C'est tellement de plaisir dans ce que je fais que voilà. Surtout maintenant, au début, tu acceptes de bosser avec des gens avec qui tu n'as pas trop envie de bosser parce que tu n'as pas trop le choix. Il faut te faire un peu d'expérience. Plus tu vieillis, plus tu peux après choisir les endroits où tu bosses. Et aujourd'hui, c'est que du kiff. France Info, question pour un champion Twitch. Donc, est-ce que c'est vraiment des tracances? Est-ce que ce ne sont pas finalement pour moi aussi des vacances? On se posera la question. On lira les échos parce qu'encore une info que je n'ai lue nulle part ailleurs, c'est dans les échos. Une bonne surprise pour le budget de l'État et ça vient des éoliennes. 8 milliards de bénéfices pour l'État. Pour le budget! Folie! C'est écologique? Ça pollue pas? Ah oui, il y en a qui disent que c'est ultra moche et que ça pose des problèmes de recyclage. Il y a toujours des gens qui disent que ça le fait pas. Mais bref, ça commence à rapporter des sous qui gouillent. Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Je kiffe ton pseudo. Je lis. Traditionnellement subventionné, normalement ça coûte hein, à l'État les énergies renouvelables et surtout l'éolien, eh bien, vont rapporter plus de 8 milliards d'euros au budget de l'État en 2022 et 2023. Une manne imprévue liée à quoi ? À l'envolée du prix de marché de l'électricité consécutif au conflit ukrainien. Vous savez que le prix de l'électricité a flambé ces derniers mois en France. Eh bien, du coup, comme, je vous la fais simple, hein, je résume, comme l'État a passé des contrats fixes, à prix fixe, avec les producteurs d'électricité qui viennent de l'éolien, eh bien, ce prix fixe a été dépassé par le prix du marché. C'est tout bénef pour l'État. Dinguerie. Voilà. À l'avenir, les gains pour l'État pourraient être encore plus importants. Voilà. Voici le dossier. Hein, c'est pas une bonne nouvelle, ça ? Merci. Bon. Ton pseudo m'interpelle à chaque fois. Babos de merde. Mais là, je suis obligé de le lire parce que tu viens de sub. Je te remercie. Mais c'est vrai que tu pourrais pas faire un truc un peu plus chill quand même ? Enfin bon. Voilà le dossier. Et juste avant, les plus attentifs auront vu qu'il y a aussi cet édito. La solitude de l'Occident. On finira pas avec ça. Parce que bon, c'est l'article le moins optimiste que j'ai lu ce matin, la solitude de l'Occident ou comment les valeurs occidentales sont en train de, comment dire, de passer au second plan, de se fragiliser dans un pays, dans un monde pardon, multipolaire où l'Occident séduit beaucoup moins qu'auparavant. On lira cet édito qui m'a fait beaucoup réfléchir ce matin. Voilà. Voilà les amis, je crois que c'est tout. Pour le sommaire de ce matin, c'est pas mal, hein ? Pas mal de choses. Oui, question très importante. Aurel Houtan nous pose la question. Merci Ludo72 pour ton prime. Merci à tous pour votre soutien. Aurel Houtan pose la question. As-tu trouvé le coupable, celui ou celle qui a mal rangé les... Non, pas les gâteaux. Les Crisp Rolls, hier pour la pause café. J'ai deux carburants dans la vie. Le café et les Crisp Rolls. Voilà. Hier, je fais ma petite pause café au bout de 2 heures de stream et je vais en quête de café et de... Crisp Rolls, c'est pour voir ceux qui suivent. Et je ne trouve pas les Crisp Rolls. Colère du streamer, colère noire du streamer. J'étais furieux et donc j'ai lancé une enquête. Ici, en Corse. Bon, j'ai appelé des copains gendarmes de la région que je connais qui m'ont dit « Écoute Samuel, ne t'énerve pas, retombe un peu, je sens que tu es un peu énervé. Commence peut-être par une enquête de voisinage. Commence même peut-être par une enquête familiale. Qui sait, peut-être que quelqu'un a déplacé ton paquet de Crisp Rolls. » Je dis à mes amis gendarmes, écoutez, je connais ma famille quand même. Je veux dire que personne n'aurait osé déplacer mon paquet de Crisp Rolls. Voilà, à mon âge, il faut des repères, il faut des voilà. Je peux pas comme ça. On peut pas changer de place un paquet de Crisp Rolls comme ça sans en parler au principal consommateur de Crisp Rolls de cette famille. J'ai mené l'enquête. Ben figurez-vous qu'effectivement, la famille avait réorganisé le rangement des courses alimentaires et que les Chris Prolls ont été relégués derrière, dans un autre placard, soi-disant avec tous les amis du petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les cracottes, les pancakes, les trucs comme ça. Là, voilà. Et donc dans un autre placard. Et là, je dis, et sérieusement, où va le monde ? Si à un moment ce genre de choses ne sont pas respectées, ceux qui disent franchement on va vers l'apocalypse, on va vers la fin du monde, ne faisons plus aucun effort, de toute façon on va tous mourir. Quand je vois ce genre d'événement, je me dis que bah, vous avez peut-être raison. Quoi. Donc, soyons optimistes, croyons en l'humain, en l'humanité. Voilà, donc je sais maintenant où sont les Chris Prolls. Mais j'ai quand même prévenu la famille que je n'ai pas trop apprécié ce petit événement. Voilà, j'aimerais un tout petit peu plus de rigueur dans la façon dont tout ça est rangé. Ah oui, oui, j'étais en train de raconter Chris Prolls. Malo nous rejoint pour le quiz Pokémon. Eh bien, voici une dizaine de jours que Malo, bientôt 6 ans, mais 5 ans à ce jour, 6 ans à la fin de l'été, à la fin du mois d'août, eh bien, a lancé une chronique Pokémon de sa propre initiative. Le voici, Alerte Enfant. Voilà. Et chaque jour, ça s'améliore. Et la nouveauté, c'est que depuis hier, comme ça a beaucoup sub pendant sa chronique, j'ai dit à Malo que tous les subs, tous les abonnements pendant sa chronique, eh bien, c'était pour lui, voilà, pour acheter notamment des Lego. Alors là, depuis hier, il y a comme une petite lumière qui s'est allumée dans son regard et il est encore plus motivé que d'habitude. Je trouve ça formidable. Malo, ils sont où les sous des abonnements ?
Je sais, à la bancaire.
À la banque.
Banque.
À la banque. Parce que Malo voulait tout ça en cash. Hein. Il m'a dit, je veux des pièces, je veux des billets. Je lui ai dit, écoute, c'est compliqué. Aujourd'hui, tu sais, c'est de l'argent, il est surtout électronique, sous forme numérique. Là, tu vas tomber, Malo, si tu te mets debout sur les ordinateurs. Et donc, j'ai réussi à lui faire comprendre que cet argent était sur le compte de papa et qu'on irait avec la carte bleue de papa acheter, par exemple, des quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait acheter avec l'argent des subs ?
Des Lego City, des Playmobil, ouais. Des Lego.
Ouais, ouais.
De la nourriture.
Ouais.
Plein de choses.
Plein de choses, voilà. Donc,
c'est l'heure du quiz Pokémon Expert.
Voilà, donc c'est l'heure du quiz Pokémon Expert. Je le rappelle, tous les subs pendant cette chronique iront, et c'est très sérieux, à Malo. Malo, quand tu veux.
Allez, go. C'est parti, la première question.
Attends, Malo, il y a Nat du 05 qui vient d'offrir un abonnement à la communauté. Donc ça y est, tu as déjà gagné un abonnement. Première question.
Allez. Je suis jaune foncé. Je tire de puissants lasers grâce à mon diamant rouge. Qui suis-je ?
Je suis jaune foncé. Je tire de puissants lasers grâce à mon diamant rouge. Rouge, c'est rouge ? C'est rose ? Qui suis-je ? Voilà. Merci à Malo. T'as plein de subs. Malo, il y a Léonarf qui t'a offert un abonnement. Il y a Intrépide44 qui t'a offert un abonnement. Il y a Azulka qui t'a offert un Prime. Il y a Mister Gaga 159 qui t'a offert un abonnement. Non, qui a offert 5 abonnements à la communauté, Mister Gaga, merci. Il y a Polo Polo qui a offert un abonnement. Il y a John Jox qui a offert un abonnement. Il y a Mister Marshmallow qui a offert un Prime. Il y a The Voyageur qui a envoyé des beats. Il y a Indery qui a offert 5 abonnements à la commune.
Quelle est la question du Pokémon ?
Alors, les gens ont répondu. Starry, beaucoup Starry. Maman Hélène qui joue aussi. Starry, il y a eu du Raichu, il y a eu Dracaufeu. Ah, les gens sont pas sûrs. Hein. Farampe.
Non, la vérité, c'était Starry, bien
Starry.
Sûr.
Ça, mais c'était Starry. C'était Starry. Tous ceux qui ont misé sur Starry, vous avez bon. Malo, je te dis tous les subs pour toi. Hein. Docteur Mogor a lâché son Prime. Kentucky a lâché son Prime. Trainer Danzo a lâché son Prime. Amélie Rose a offert un abonnement à la commu. Jerry BDTN a pris un premier abonnement.
Ok. Là, j'ai 100 abonnements, c'est ça ?
Pas 100 encore, mais quand même beaucoup d'abonnements.
Beaucoup,
énormément. Il va y avoir une très belle boîte de Lego. Hein. Il y a Winnie Sam, il y a Mal au foie, il y a Docteur Mogor.
Il y a Mal au foie comme il y a le mot de mon nom. Malo.
Oui, donc Mal au foie, il y a Malo, ouais. Il y a Chucky Max aussi qui vient de lâcher son Prime. Tout ça, Malo, c'est pour toi, pour les Playmobil, pour les Lego, pour tout ce que tu veux. Deuxième question.
J'ai deux bras, je suis tout bleu. J'ai deux bras ronds. Mes deux bras ronds sous ton blanc. J'ai une attaque très forte appelée Métal Laser et je suis tout blanc. Qui suis-je ?
J'ai entendu parler de deux bras ronds. Je suis tout blanc. J'ai une attaque très puissante qui s'appelle Métal Laser. C'est ça ? À vous. Je vois Tartar, Lugia, Metang, Loclas, Tartar, Tartar, Lugia, Bulbizar, Lugia de nouveau, Marakachi, Méga Métallose. Tu peux redire la question ?
Est-ce que tout le monde a compris ?
Est-ce que tu peux répéter ?
Désolé, mais tout le monde a perdu la vérité, c'était Turalugon.
Comment tu dis ?
Turalugon, c'était la vérité, Turalugon.
Ah bah il y a quelqu'un qui l'avait trouvé. Dura du long. Il y a Arkane 69 qui avait trouvé. Waouh.
Tous les autres.
Tous les autres vous avez perdu en fait. Qu'est-ce qu'on dit à tous les autres ?
Désolé tous les autres, vous avez perdu.
Bon, certains avaient trouvé quand même. Dura du long. Naltir a offert un abonnement à la commu. Merci à toi. Malo, troisième question.
Troisième ?
Oui.
J'ai une grande mâchoire.
Malo, dans le micro.
J'ai une grande mâchoire, je suis tout orange et j'attends qu'un ennemi tombe dans mon nid d'une tornade de sable. Qui suis-je ?
Je suis tout orange et une grosse mâchoire et j'attends que mon ennemi tombe dans mon nid, une tornade de sable, quelque chose comme ça ? Oh, je vois plein de réponses. Cyril 8574 offre un abonnement à la commune. 66 Abigail envoie plein de beats. Annie envoie des milliers de beats. Belga FR envoie plein de beats. Merci à tous. Alors je vois Donald Trump, je pense que c'est pas vrai. Je vois Jean Castex, je pense que c'est faux. Je vois Cracknoax, beaucoup Cracknoax.
Eh ben les Cracknoax, et on sait qu'on dit Cracknoax. Oui, la vérité, c'était Cracknoax.
Ah, on prononce pas le X à la fin. On dit Cracknoax. Oh, pardon. Cracknoax, je suis nul. C'est Malo le spécialiste. On prononce pas le X. Cracknoax. Il y a plein de gens qui ont dit Cracknoax. C'est ça, Malo, la bonne réponse ?
Oui, Cracknoax.
Ah. Attention, voici la quatrième question.
Qu'est-ce que c'est moi ? Ah. J'ai une grande queue verte, j'ai des yeux rouges, je suis tout vert et je fais des sons amusants avec des ailes, avec mes ailes, et je suis une des évolutions de Cracknoax. Qui suis-je ?
Alors, on parle d'une évolution de Cracknoax. J'ai entendu vert, grand vert, queue verte aussi, des ailes. Et je vois des réponses, je vois beaucoup Libégon. Je vois aussi Manuel Ferrara, je pense que c'est faux. Je pense que ce n'est pas ça. Je vois Vibranif, je vois Libégon beaucoup. Je vois Libégon. Vibranif, pardon. C'est pas super noir, non. Le comte Dracula, ça ne marche pas. Le géant vert non plus.
Désolé.
C'est qui ?
La vérité, c'était Libégon, parce que ceux qui ont... comment ils s'appellent ? Ceux qui ont dit... qui ont hésité à...
Vibranif.
Désolé, les Vibranif, parce que Libégon, l'évolution d'un Vibranif, donc la vérité, c'était Libégon.
Je comprends rien, j'adore. Il y a Geek197 qui vient d'offrir un abonnement à la communauté Malo. Tu vas pouvoir t'acheter une boîte de Mélo, de Lego, de dingue, une dinguerie. Une grosse, une très très grosse. Malo, cinquième question, c'est la dernière question de ce matin.
Non, aujourd'hui il y en a, allez, 7.
Bon alors, 7, la cinquième. Il y a Fédébois qui dit, purée, tous les matins on vient pour se faire engueuler, j'adore.
Qui suis-je ? Je n'ai que 3 attaques, je suis de type électrique et psy et je suis une évolution de Pikachu.
Évolution de Pikachu, je n'ai que 3 attaques, je suis de type, comment tu dis ?
Électrique et psy.
Sachez que Malo n'a aucune note, de toute façon il ne sait pas encore bien lire, il n'a pas encore 6 ans, le CP c'est à la rentrée prochaine, et tout ça c'est de mémoire. Hein. Alors je vois beaucoup Raichu, ça n'est pas Mimimati, je vois Pichu, Raichu, ça n'est pas Mimimati, hein, je rappelle, Raichu d'Alola, Raichu.
Est-ce qu'il y en a seulement un qui dit Raichu d'Alola ?
Non, il y en a plein.
La vérité, c'était Raichu d'Alola. Parce que Pikachu pouvait voler soit en Raichu, soit en Raichu d'Alola.
Et là, c'était Raichu d'Alola? C'était pas Raichu?
Parce que Raichu, il est que de type électrique. Enfin. Bah,
redis Malo.
Mais enfin, Raichu est que de type électrique.
Mais enfin, Raichu, il est que de type électrique. Tous les gens qui ont répondu Raichu, là, on l'a bien précisé, de type électrique et de type psy. Donc c'est Raichu d'Alola. Mais enfin. Enfin, c'est pas Pogacar. Hein. Certains sont partis sur le jaune et on dit Pogacar. Sachez, Pogacar, il n'est même pas en jaune.
Pogacar, il n'existe même pas comme Pokémon.
Ouais, Pogacar, il n'existe même pas comme Pokémon. Donc alors, réfléchissez un petit peu, enfin. Malo, est-ce que tu trouves qu'ils réfléchissent bien ce matin?
Non. Bien. Je trouve pas bien les Pogacar parce que ça n'existe pas.
Pogacar, c'est pas un Pikachu. Hein? Il y a Hélène qui cherche. C'est un cycliste, ma puce. C'est un cycliste du Tour de France, Pogacar. Allez, cinquième question. Viens près du micro, mon chéri, t'es trop loin, là.
Je suis de type poison, je suis tout gluant et je suis violet. Qui suis-je?
Je suis de type poison, je suis violet, je suis tout gluant. C'est qui? C'est... Alors, je vois tas de morve, gros tas de morve. Tas de morve, certains disent gros tas de morve. Il y a tas de morve, non, c'est pas Manuel Valls, non. Je vois tas de morve, gros tas de morve. Patrick Balkany, non, Patrick Balkany, c'est pas un Pokémon, je crois. Tas de morve, gros tas de morve. Alors, c'est les gens hésitent entre tas de morve et gros tas de morve.
Ils hésitent, et qu'est-ce qu'ils disent le plus?
Bah, il y a quelqu'un qui dit que c'est ma belle-mère, moi je pense que c'est pas ça non plus. Ils disent beaucoup. C'est vraiment moitié-moitié, Malo. Moitié-moitié.
Mais qu'est-ce qu'ils disent le plus, vraiment?
Ils disent beaucoup... Tas de morve.
Désolé, mais c'était... La vérité, c'était gros tas de morve.
Pourquoi c'est pas tas de morve?
Parce que si c'était... Tas de morve, j'aurais dit... qu'il aurait de tout petits bras.
Bah oui, bah c'est évident, hein. C'est évident. Hein.
Et gros tas de morve, il a de plus gros bras.
Bah oui, gros tas de morve, il a des gros bras. Attention, sixième question, Malo, plus que deux questions. Merci encore à tous ceux qui ont sub pour Malo. Je rappelle que tous les subs, les abonnements, c'est pour Malo. Et c'est vrai, hein, bien sûr, on ne ment pas aux enfants. De toute façon, ils me demandent des comptes après. Malo, sixième question.
Est-ce que... Qui suis-je? Je suis de type feu. Et mon évolution... Quand j'évolue, je suis de type feu et combat. Et quand je vois une baie, je la chauffe même quand elle est chaude. Qui suis-je?
Alors, vous l'avez ou pas? Je vois...
Papa,
ah, il y a Solal qui veut participer aussi. Brazegali, Chamallow, Brazegali, Poussifeu, Dracofeu, Chimponfeu, Poussifeu. Dracofeu... Malo, tu peux reposer la question? Malo, t'es où? Non, viens du côté du micro. Malo, il faut que tu restes devant le micro. Un streamer professionnel, ça reste devant le micro. Et un streamer professionnel, Solal, ça ne touche pas aux ordinateurs. Enfin, pas tout le temps comme ça, en appuyant sur le clavier n'importe comment. Malo, tu peux reposer la question?
Je suis de type feu et combat, parce que c'est... Mes attaques délivrent une puissance exceptionnelle.
Oui.
Et il y a le mot roi dans mon prénom.
Ah, mais c'est une nouvelle, ça, c'est une autre.
Oui, mais le problème, c'est que lui, je le connais pas trop bien.
Ah, bon, il y a un doute sur la question d'avant. Je vois roi Tiflamme. C'est roi Tiflamme?
Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent autre chose?
Alors, il y a beaucoup de roi Tiflamme. Je crois que Malo, il aime bien vous mettre à l'amende. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que roi Tiflamme? Il y a Poissy-Roi. Crozix, il dit c'est Poissy-Roi. Poissix, il dit ça.
Quoi?
Poissix, il dit que c'est Poissy-Roi.
Désolé, Poissir.
Oui.
Mais la vérité, c'était... Roi Tiflamme.
Ah, c'était Roi Tifla, c'était Roi Tifla. J'ai compris le mode de fonctionnement de Malo. Il aime bien vous mettre à l'amende comme c'est un coquin. Attention, voici la dernière question de ce stream. Enfin, de ce stream. De ce quiz Pokémon niveau expert, je le rappelle, de Malo. Malo, attention, faut que ce soit une difficile. Hein.
Je...
Viens près du micro. Malo, près du micro, mon chéri. J'ai une longue... Attends,
suis...
non, Malo, près du micro. J'ai une longue queue.
Je suis tout bleu.
Oui.
Et je suis de type... Oh.
Je suis de type O, j'ai une longue queue, je suis bleu, je suis. Je suis, je vois Léviator, je vois Draco, je vois Amphibien, je vois le géant bleu, je vois Samuel Etienne, je vois Monsieur Chibre, je vois Maril, je vois Léviator. Vous n'êtes pas d'accord du tout. Rocco Siffredi, non, ça n'est pas un... Non. Léviator, je vois beaucoup de Léviator. Beaucoup de Léviator.
En réalité, c'était Léviator, parce qu'une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il est aussi de type vol. Ah. Donc ça peut surtout pas être un Magikarp. Bravo ceux qui n'ont pas dit Magikarp.
Bravo tous ceux qui n'ont pas dit Magikarp. Malo, est-ce que tu as trouvé que les gens étaient concentrés et étaient forts ce matin?
Oui.
Tu sais que tu as eu beaucoup de subs et d'abonnements, Malo?
Combien?
Oh, beaucoup.
Combien?
Je sais pas, la louche. Attends, 1, 2. Puis il y a les beats aussi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 5 d'un coup là. Ça fait 16, 17, 18, 19. Encore 5. On va dire 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Malo. 30. On va arrondir 30 subs. 30 subs.
30 subs,
c'est énorme. C'est énorme.
J'ai oublié qu'il y en avait 9 aujourd'hui parce que c'était un jour un petit peu spécial.
Non, on s'arrête à 7. Il faut en garder pour demain. Il ne faut plus s'arrêter. Malo, qu'est-ce que tu veux dire aux gens que tu vas retrouver demain? Viens.
À demain pour le quiz Pokémon.
Malo, je te félicite parce que tu es un meilleur streamer que ton père.
30 plus 30, ça fait combien?
Ça fait 60.
Et ben là, ça veut dire que j'ai 60 abonnements.
Je suis en train de me faire dépouiller. Attends, c'est quand même mon setup. Hein. Vas-y, l'autre. Il est à qui le micro? Il est à qui le PC? C'est à qui la table de mixage? C'est qui monte le setup tous les matins? Donc 60 subs en deux jours. On va se calmer, le choupitou, là. Peut-être lui en prendre une partie, non? Vous pensez quoi? Hein? Parce que bon, hein, il profite de ma commu, là. Je veux dire, il n'a pas créé sa chaîne. Eh oh! Ouais, c'est Hélène qui a monté le setup ce matin, c'est pas faux. Non, mais c'est pour lui, hein. C'est pour lui. Hier, il y avait genre 30 subs aussi pour Malo. Il a plus de succès que moi. Donc, c'est pour lui. Il est fort quand même. Bon, je pense que tous les papas sont comme ça, très fiers de leurs enfants, mais il me fait rire. Tout ça, c'est de tête, hein. Puisque, bon, il sait pas encore lire, donc il ne connaît de l'univers Pokémon que ce qu'on lui lit avec sa maman. Hélène et moi, dans le Pokédex notamment, et sur les cartes Pokémon que ses proches lui offrent. Donc on lui lit et il retient tout. Voilà, donc tout ce petit quiz, là, c'est de mémoire. Ah, petit chouchou, je l'adore. Bon, merci en tout cas d'avoir joué le jeu avec Malo. On vient seulement de terminer le sommaire, le quiz Pokémon a enchaîné. Et maintenant, on va lire tous les articles qu'on a évoqués dans le sommaire. Voilà. Il rentre en CP à la rentrée, petit chouchou. Voilà. C'est cool, c'est drôle, c'est étonnant. Il a une mémoire de dingue. Et du coup, on fait super attention à tout ce qu'on dit devant lui parce qu'il retient tout. Puis, inutile de l'embrouiller. Hein. Là, par exemple, il a très bien retenu qu'hier, il y avait à peu près 30 subs pour lui, 30 encore ce matin. Vous avez vu, il m'a demandé le compte avant de partir. Hein. Voilà, il est... Ça va aller pour lui, ça va. Je pense qu'il va bien se débrouiller. Ça me fait rire. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir joué le jeu. Vous êtes vraiment... Cool, on lit tout ça maintenant? Allez, c'est parti. Il sera beaucoup question d'incendie ce matin. Évidemment, je vous ai choisi dans chaque journal que j'ai lu des articles différents pour éclairer de façon différente cette problématique avec des éléments, des informations différentes. Sur le pouvoir d'achat, on en a beaucoup parlé hier. Donc, le texte du gouvernement, le projet de loi du gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des Français arrive à l'Assemblée. On a beaucoup parlé de l'enjeu de ce texte hier, puisque si on met de côté le texte sur le Covid-19, la crise sanitaire, c'est le premier gros texte à arriver venant du gouvernement devant cette assemblée où Macron n'a pas eu la majorité absolue, mais relative. Et on a déjà vu sur le texte sur le Covid que les débats étaient extrêmement compliqués avec une partie du texte qui n'a pas été adoptée à l'Assemblée. Donc toute la question est de savoir si le projet de loi sur le pouvoir d'achat va être adopté par l'Assemblée. Tout parti, voté par qui? Par les députés macronistes, les députés de droite, les députés de la NUP, les députés de l'extrême droite, c'est un grand suspense. On va voir ce qui se passera dans les prochains jours. Donc ce matin, je ne reviens pas là-dessus, même si c'est à la Une du Monde, puisqu'on en a beaucoup parlé hier, Cyril, à propos de Dany. Effectivement, on en a parlé longuement tout à l'heure, puisque plusieurs dans le chat m'ont signalé son décès. Et on a déjà lu quelques papiers là-dessus. On va plutôt parler des incendies avec Le Monde. Regardez ce titre, le feu. Ce feu est un monstre. On va à la Teste de Buch et à Landiras, où les flammes ont ravagé, c'est énorme, 14 000 hectares de forêt en moins d'une semaine et continuent de progresser. Lisons. D'un côté comme de l'autre, les soldats du feu savent qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Lundi, des renforts en effectif, donc c'était hier, hein, véhicules et canadaires étaient attendus pour faire face aux 44 degrés annoncés. Ces températures ne feront qu'alimenter les deux brasiers que plus de 1500 pompiers tentent en vain, hein, il n'est pas arrêté, de contenir depuis des jours, les flammes ont ravagé 14 000 hectares de forêt en moins d'une semaine. À l'heure où on parle, ce chiffre est déjà dépassé et ne cesse de progresser. Très peu, heureusement, de bâtiments ont été touchés. Et encore mieux, si je puis me permettre, aucune victime pour l'heure n'est à déplorer, je croise les doigts. Les pompiers anticipent malgré tout un combat encore très long contre les événements Loulou 722. Merci pour ce quatrième mois d'abonnement. J'aime bien quand vous soutenez ce stream, même quand Malo n'est pas là, parce que ça me fait un peu chaud au cœur quand même. Continuons. Deux incendies de cette ampleur et de cette virulence en même temps sur un département, c'est une première en Gironde. C'est même une première en France, ce que souligne la préfète du département, Jérémy Chaille. Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Cette concomitance oblige les pompiers, c'est ça qui est embêtant, à diviser leurs équipes et leur matériel sur des feux qui normalement nécessiteraient chacun une concentration maximale des moyens. Face à cette situation, les renforts se relaient de toute la France pour appuyer les pompiers du département. Si l'urgence des pompiers et des bénévoles mobilisés en masse reste de maîtriser les brasiers, la destruction de milliers d'hectares d'arbres dans la première région forestière de France inquiète aussi quant à ses répercussions écologiques et économiques. Un mot aussi des habitants et des vacanciers. 16 000 déjà évacués en Gironde, au parc des expositions qui a accueilli les délogés. Laurent Dayan, il a 56 ans, raconte le départ précipité de son logement de Cazaux. Son fils de 26 ans, Théo, lâche « Nous voilà, réfugiés climatiques ». Et Le Monde d'expliquer, l'observation de Théo est partagée. En un peu plus d'un mois, le département a connu deux vagues de canicule, des orages de grêle dévastateurs qui ont nécessité des centaines d'interventions des pompiers et désormais deux incendies de large ampleur. On ne touche pas du doigt le changement climatique, on le reçoit en pleine face, j'allais dire en pleine gueule, résume Jean-Luc Glaise, qui est le président du département et du SDIS 33, qu'on lira dans d'autres articles. Voilà pour ce point du monde. La question des incendies, on va les évoquer avec Le Parisien, avec Libération, avec L'Humanité, avec de nombreux journaux. Ce matin, je vous lis déjà un petit peu dans le chat. Annie, merci beaucoup pour l'abonnement offert à Cripjet. Merci Swing pour le Prime à l'instant. Merci Guinamo79 pour le MP vers une vidéo pédagogique sur le réchauffement climatique. Je vais regarder ça et je vous le soumettrai peut-être demain. Flavien Cunis, tu as raison, je n'ai rien lu de tel à ce propos. Je trouve que les animaux de la forêt sont les grands oubliés de cette histoire. On est en pleine période de reproduction et par exemple les oisillons crament. Flavien, je n'ai rien lu là-dessus, mais je vais faire attention. On sait que ça arrive tous les étés, pourquoi on n'arrive pas à anticiper ça? Manque de moyens personnels, TD Nuèvre, on posera la question dans les articles de ce matin. Annie, merci pour l'abonnement que tu offres à monsieur Cressoviac, je pense que je prononce à peu près correctement. À Périgueux ce matin, nous dit Rumain, nous sommes réveillés dans un épais nuage de fumée dû à ces incendies, nuages portés par le vent d'ouest. J'habite sur place, c'est vraiment l'angoisse, dit Cripjet. Continuons avec Le Parisien, qui s'intéresse notamment à ces vacanciers qui arrivent dans ces départements concernés et qui sont parfois pris au piège, qui doivent être évacués ou qui rentrent chez eux. Alors que les vacances viennent à peine de débuter, lundi, plus de 16 000 personnes évacuées, autant qu'au cours des 6 derniers jours. Beaucoup d'estivants ont dû partir en catastrophe. Les 5 campings de Pilat-sur-Mer ont été détruits. Notamment celui de quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Mathieu Valbuena, le footballeur qui est justement copropriétaire d'un de ces campings qui a flambé. Petite interview dans le Parisien. L'été vire donc au cauchemar dans ces régions. De nombreux vacanciers font demi-tour. Et voici l'interview dont je vous parlais, Mathieu Valbuena. Alors, étrange de l'avoir ici, mais il se trouve que le footballeur international est copropriétaire du Pila Camping, l'un des campings qui a totalement été détruit. Il dit aux Parisiens... interview intéressante parce qu'il ne pense pas du tout aux problèmes financiers que ça peut lui occasionner. A priori, il est peut-être rassuré, mais il va falloir reconstruire tout ça. Il est beaucoup plus vers le remerciement aux pompiers. Voilà, et l'inquiétude pour la sécurité des gens que ses propres soucis. Voilà. Mathieu Valbuena, dont j'ignorais qu'il avait un camping maintenant, je le sais. Le Parisien qui publie de très beaux et très inquiétants clichés sur, pour nous faire comprendre les risques que prennent pour nous protéger et protéger la forêt les soldats du feu. Voilà, toute une collection de très belles photos. Voilà, celle-ci est particulièrement forte. Imagine la fatigue des pompiers mobilisés sur ces sinistres. Voilà. Et photo de la désolation après le passage des flammes. Voilà. On va y revenir sur ces incendies, sur le pourquoi, qu'est-ce qui les a provoqués, sur le comment, pourquoi on n'arrive pas à les maîtriser, et sur qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on va essayer de se projeter aussi pour voir quelles sont les éventuelles solutions pour que cela ne se reproduise pas. À Brest, on se croirait en Provence. Parlons de la chaleur. Est-ce que j'ai vu la vidéo de l'incendie de la dune du Pila vue de la mer ? Je ne sais pas si je peux la trouver. Mais c'est vrai que je crois l'avoir vue hier. J'ai entendu Figaro là.
Ce n'est pas de votre faute si l'été vous manquait un tout petit peu.
On laisse passer la pub. Je crois que c'est ça. Désolé pour la pub. Non, je suis en train de montrer la vidéo des incendies. Tout va bien. Oh. Ah, mais t'es tout nu en plus. Bon, vous avez, bon, je pense que vous avez peut-être vu Solal tout nu. Hein, voilà, très bien. Bon, je vous recale. J'ai comme un petit. Alors, j'ai passé deux consignes dans la maison. C'est sur les Chris Pauls, arrêtez de les ranger n'importe où. Et quand les enfants sont tout nus, essayez de ne pas les faire venir dans le champ. Je sais pas si vous avez vu Solal tout nu. Oh, chouchou va. Allez, on regarde l'incendie vu depuis la dune du Pila. Waouh. Wow.
Là, la dune, elle est en train de cramer.
Impressionnant. Impressionnant. Bon, vous avez plein d'images sur Internet comme ça pour montrer la violence de ces incendies qui, au moment où on parle, sont toujours hors de contrôle. Alors, il y a les incendies. Et on va y revenir, je vous le disais, dans d'autres articles. Penchons-nous un petit peu sur la chaleur, cette canicule exceptionnelle. À Brest, par exemple, on n'avait jamais vu ça. Littéralement, on a battu des records de chaleur. On se croirait en Provence, nous explique le Parisien. Comme prévu, le record de chaleur qui datait de 1949 est tombé hier à Brest pour atteindre 39,3%. 39,3 degrés, ça y est, je suis déjà sur le CAC 40, moi. En Bretagne. C'est juste une dinguerie. Vacanciers et locaux ont cherché partout des îlots de fraîcheur. Attention, attention. Je pense à ceux qui sont ce matin avec nous dans le sud-ouest ou dans l'ouest de la France. Attention maintenant à la baisse des températures. Et c'est les médecins qui sont assez inquiets par rapport à ça. Passer... Alors mademoiselle Nel qui s'est levée un peu du mauvais pied. Ah, ça m'énerve l'utilisation à outrance du mot record. Là, c'était 1949 le dernier record, je le fais exprès, de température. Donc là, si record. Après, si c'est le mot record qui te gêne pour essayer de faire comprendre le réchauffement climatique, on peut en trouver un autre. Mais là, je pense que pour le coup, il n'est pas galvaudé. Pour le coup, il n'est pas galvaudé. Donc attention, nous disent les médecins, à la forte chute des températures dans certaines régions. Voilà. Il y a 66 Abigail qui dit effectivement passer de 42 à 25, c'est dur. Voilà. Parce que ça peut mettre à mal nos organismes. Les plus fragiles, en tout cas, qui pourraient souffrir de passer de 40 à 22 degrés. Tiens, il y a Poséidon qui nous dit 42 hier à Nantes. 20, combien actuellement ? 22 ? Combien ? J'ai perdu ton message. Bon, enfin, genre, moins 20 degrés, quoi. Lisons cette histoire-là. Le mercure joue le yo-yo à l'envers ce mardi à Brest, par exemple, avec une chute brutale de température de presque 40 à 22 degrés, moins 10-18 degrés en quelques heures. Alors, personne ne s'en plaindra hein, du retour d'une certaine fraîcheur. Mais attention, parce que ce contraste thermique peut nous jouer des tours. La docteure Isabelle Bonmarin, par exemple, explique qu'il faut être vigilant quand les températures augmentent fortement. Oui, mais il faut faire de même lorsqu'elles chutent brutalement. La médecin déconseille aux personnes âgées ou fragiles de reprendre tout de suite une activité physique, même normale. Il vaut mieux attendre un jour ou deux, se reposer, c'est plus raisonnable. J'insiste, dit la docteure, les organismes sont fatigués et on en a... Je comprends, mademoiselle, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et l'organisme est toujours fatigué. L'organisme n'aime pas les sautes de température. Cela l'oblige à se réadapter en permanence, dit encore François Baumann, qui est médecin généraliste. Nous sommes des animaux homéothermes, c'est-à-dire que notre thermostat est réglé autour de 37 degrés, hein, sauf problème de santé, prévient Patrick Erdgen, qui est médecin urgentiste. Quand ça n'est pas le cas, bah, comme en période de canicule, on est au-delà des 37, parfois au-delà des 40, nos vaisseaux sanguins se dilatent pour éviter que la chaleur qui se crée dans le corps ne reste à l'intérieur et puisse s'éliminer en périphérie. Cela fait plus travailler l'organisme, le cœur bat plus vite, or la fonction cardiaque des plus âgés est moins efficace. C'est pour ça qu'il faut se méfier à la fois des fortes chaleurs et des fortes baisses des températures. Annie, merci pour l'abonnement que tu as offert à nouveau à la commune. Voilà. Donc, si vous n'êtes peut-être pas directement concerné par l'âge ou par la fragilité de votre organisme, mais si vous connaissez des gens dans votre entourage ou fragiles au niveau de la santé et ou âgés, n'hésitez pas à les prévenir. Je vais remercier quelqu'un en direct, là, je n'avais pas vu, c'était il y a 25 minutes. Voilà. Merci Eric. Eric, je n'avais pas vu. Merci pour le don en direct que je n'avais pas vu tout à l'heure. J'espère que tu es toujours avec nous. Merci beaucoup. Je me demande si ce n'est pas tombé en pleine chronique Pokémon de Malou. Je vérifierai. Dans ce cas-là, ce sera pour lui. Je n'ai pas été très réactif. Vous avez été plus rapide que moi sur l'horoscope. Effectivement, vous avez vu arriver l'horoscope avant que je lance officiellement le concours de l'horoscope. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, quand on arrive cette page de l'horoscope du Parisien, on n'y croit pas, mais c'est rigolo. Le premier, la première qui donne son signe dans le chat... correctement écrit, il ne faut pas déconner, je le lis. Mais là, j'étais très en retard, donc j'ai à peu près 6000 propositions. Bélier, scorpion, vierge, etc. Donc je vais vous trouver un petit concours. Un petit concours. D'actu. Ok, je sais. Le premier et la première à répondre à cette question d'actualité et en même temps, dans sa réponse, à me donner son signe. Donc il me faut la bonne réponse et le signe astrologique dans la même réponse, je lui lis son signe, ok ? Vous avez compris ? Il me faut la bonne réponse et le signe dans la même phrase. Attention, qui est l'adversaire des Françaises en quart de finale de l'Euro de football ? Prochain match, c'est... Oh, c'est tellement rapide, oh, vous avez anticipé, il y en a qui ont anticipé, c'est pas possible. J'avais à peine fini ma phrase. Ah non, mais comment vous avez... Ah, vous avez deviné, quoi. Il y a Nivik qui a écrit « Poisson Pays-Bas ». et John Doe juste derrière, Pays-Bas, Lyon, et Steph, Gémeaux, Pays-Bas, mais tellement rapidement. Attends, vous avez anticipé, comment vous faites? Vous lisez dans mes questions, vous êtes des machines. Je reviens pas. Donc c'est Poisson, hein. C'est Nevy qui a été le plus rapide, mais le plus rapide de quelques dixièmes, centièmes de seconde sur d'autres. Vous m'impressionnez, je sais pas comment vous faites. Ok, donc c'est Poisson ce matin. Vous êtes des machines d'actualité, des machines de rapidité. Poisson, comment vous faites ça en vrai? Cœur, une complicité de cœur et d'esprit vous liera à un proche. C'est bien ça. Réussite, ne prenez pas de risques financiers excessifs. Donc doucement sur la CB, les poissons s'il vous plaît aujourd'hui. Forme, laissez-vous tenter par un massage. Enfin ça c'est bon tous les jours, ça c'est massage, massage c'est la vie ça. Massage c'est tellement c'est bien. Le massage c'est très très bon hein, pour la santé, c'est très très bon. Demandez à Patrick Bruel par exemple. On lit aussi le baromètre de l'amour tous les matins. C'est rigolo. Baromètre de l'amour, celle-là elle est passée très très vite hein. Je cherche le baromètre de l'amour pour tout le monde hein. Désolé. Baromètre de l'amour. Gémeaux. L'accomplissement de vos objectifs se fait lentement mais sûrement. C'est bien ça. Hein. Et Vierge, amour toujours. Hein. Baromètre. En voulant aller trop vite, vous pourriez aller tout droit vers un échec. Oui, c'est vrai. En matière d'amour, il faut y aller tout doucement, comme chantait Bibi il y a très longtemps. Voilà. Voilà pour l'horoscope. Vous êtes tellement rapide, vous m'impressionnez. Steph, 1906, on s'entraîne à question pour un champion, il faut savoir la réponse avant que la question soit finie. Vous êtes des machines, vous êtes des machines. Quel ref à Bruel? Qui a fait une ref à Bruel ici? De quoi vous parlez? Pas au courant. La Une de Libération, consacrée également aux incendies. L'impression d'être dans un film catastrophe, une semaine maintenant que les forêts de pins de Gironde sont ravagées par les flammes, entraînant des évacuations massives, on l'a évoqué avec le Parisien, reportage au cœur de la désolation. Alexandra Schwarzbord signe l'édito ce matin dans Libé que je vous lis. Let's go. Nous y sommes presque. Dans un de ces films catastrophes à gros budget que l'on regardait il y a quelques années encore avec des frissons d'angoisse, d'autant plus délicieux que la catastrophe nous semblait pure fiction. Nous y sommes. Presque. Cette fois, la réalité nous saute à la figure et les frissons d'angoisse ne sont plus du cinéma. L'Europe suffoque. Les incendies se multiplient, ravageurs. Alors que l'Angleterre bat, elle aussi, des records de température et que Londres décrète l'urgence nationale, la France ne sait plus comment venir à bout des flammes qui la dévorent du sud-ouest jusqu'au sud-est. Les images qui nous parviennent de notre photographe, explique Libération sur place, montrent des pompiers luttant sans répit, excusez-moi, sans répit, mais souvent impuissants devant la force du brasier. Comment? Je suis sûr que vous êtes plein à vous poser la question. Et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Des vagues de chaleur de plus en plus denses et répétées, des moyens matériels insuffisants et trop anciens. Et ça, on va en parler dans plusieurs articles ce matin. Commencez par celui-ci de Libération, signé d'Eva Fontenot, l'envoyée spéciale à l'Honduras. Et Villandro, je cite également Marion Parent, qui est la photographe qui est à l'origine des clichés qu'on voit dans Libé. Le président du département, Jean-Luc Glaise, dit que son département devrait être aujourd'hui considéré comme la Corse, c'est-à-dire avec au moins deux canadairs à disposition. Vous savez que la flotte des avions pour lutter contre les incendies canadairs et Dash notamment sont mobilisés dans le sud-est pour rayonner un petit peu partout, sauf que pour rayonner parfois il faut mettre du temps et du coup dans Gironde on dit écoutez comme la Corse il nous faudrait au moins l'été la Corse je crois qu'ils ont deux canadairs qui sont tout l'été ici, on les voit tourner assez régulièrement même ici. Donc le département de la Gironde demande aujourd'hui à être considéré comme la Corse, avec au moins deux canadairs à disposition. Nous avons ici, dit le président du département, le plus grand massif résineux d'Europe, hautement inflammable. Quand un feu démarre, c'est une question de minutes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre les renforts de l'autre bout du pays. C'est ce que je vous disais à l'instant. Justement, Libération vous propose un dossier, un article sur les moyens aériens français de lutte contre les incendies. Canadair et Dash, les deux types d'avions. Là, vous voyez un Dash, là, ici. Goutte d'eau sur terre brûlante. Face au feu girondin, les avions de la sécurité civile française sont particulièrement mobilisés, flotte aérienne spécifique, mais qui manque de modernité. Je lis le message de Crozix TV. Je suis pompier. C'est terrible ce qui arrive. La planète nous montre qu'elle brûle littéralement. Les personnels font de leur mieux, et ça on le sait. Mais nous ne sommes à rien face à ça. J'espère qu'on se réveillera à temps, nous dit ce pompier. Face au feu girondin, les avions de la sécurité civile française sont particulièrement mobilisés. Flotte aérienne spécifique, mais qui manque de modernité. Lisons l'article de Blandine Lavignon. Le balai des bombardiers est à nouveau lancé. Cet été, ces avions aux couleurs vives fendent le ciel rougeoyant des incendies pour aider la Gironde. 6 Canadair et 3 Dash y sont actuellement mobilisés, alors que les polémiques montent sur les capacités de ces moyens aériens face à la multiplication des incendies. Le fonctionnement de la flotte des bombardiers français pose question. La flotte aérienne de la sécurité civile française est l'une des plus conséquentes d'Europe. Créée dans les années 60, elle est aujourd'hui composée de 21 avions, dont 12 Canadair et 6 Dash. Les trois restants sont des Beechcraft King 200, qui sont des appareils qui servent à la reconnaissance. Puis je crois qu'il y a, un ou deux hélicoptères aussi. Aux commandes, 87 pilotes sont déployés en permanence. D'autres peuvent être appelés en renfort et en cas d'incendie. 87 pilotes, hein, quand même. Cette flotte est entièrement basée à Nîmes-Garon, c'est ce que je vous disais, dans le Gard depuis 2017. Toute la flotte est là. L'été, une partie est délocalisée dans les régions particulièrement sujettes aux incendies, comme la Corse, afin de réduire le délai d'intervention depuis Nîmes. En plus de ceux de sa flotte nationale, des bombardiers peuvent être prêtés à la France par d'autres pays de l'Union européenne via le mécanisme de protection civile européenne face aux violences d'incendie en Gironde, par exemple. La Grèce a dépêché 2 Canadair sur le territoire français. Les différents appareils qui composent la flotte de la sécurité civile ont un fonctionnement propre. Le plus célèbre, c'est le Canadair, bien sûr, et sa coque jaune vif, emblématique, qui est un avion dit amphibie. Premier modèle d'appareil entièrement conçu pour une mission de bombardier d'eau dans le courant des années 90. Il a la capacité d'effleurer en vol, et vous l'avez sûrement vu déjà, au moins à la télé, ou de se poser à la surface de l'eau. L'avion de 20 mètres peut alors remplir sa soute de 6000 litres en une dizaine de secondes. Graken H2S, merci pour le 11e mois d'abonnement. Le Canadair peut s'approvisionner aussi bien sur un plan d'eau douce qu'en mer et atteindre une vitesse de 350 km/h. Le Dash 8, maintenant, qui est de conception plus récente, vous avez un Dash ici. Le Dash 8 est initialement un avion civil développé à la fin des années 80, qui n'a donc pas été conçu à l'origine pour la lutte contre le feu, mais grâce à l'ajout d'un réservoir central, cet aéronef de 30 mètres de long peut assurer une fonction de bombardier d'eau. Ne pouvant se ravitailler en eau quand il est en vol, elle ne peut pas se poser sur l'eau. Il doit être rempli dans un pélicandrome, c'est une réservoir, base de ravitaillement, il y en a 22 en France. Dans son réservoir d'une capacité de 10 000 litres, on va rappeler, le Canadair c'est 6 000, le Dash peut embarquer de l'eau, mais aussi un produit inifugeant, pardon, comme celui-ci qu'on voit ici, qui permet de retarder l'avancée des flammes. Le Dash peut voler beaucoup plus vite que le Canadair, deux fois plus vite à peu près, 660 km/h. Appareil qui est doté d'un système de largage aussi qui est plus précis, plus efficace. Impossible pour les avions basés à Nîmes d'arriver rapidement sur les départs de feu aux quatre coins de la France en raison de leur temps de trajet. Hein. Depuis le Gard, par exemple, il faut à peu près 2 heures pour rallier Bordeaux, d'autant qu'ils ne peuvent pas voler de nuit, hein, ces appareils. En cas d'incendie se déclarant le soir, par exemple, eh bien ces bombardiers d'eau doivent attendre le lendemain matin pour effectuer leur premier largage, donc 8 à 10 heures après les premières flammes. Évidemment, c'est trop tard. Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, a demandé dans Libé justement la création d'une flotte locale en Gironde. Ces difficultés logistiques sont accentuées par l'ancienneté de la flotte française, parce que certains de nos avions sont assez vieux. L'âge moyen des bombardiers est supérieur à 20 ans. Ces appareils nécessitent une maintenance régulière qui peut même devenir quotidienne en cas d'utilisation très fréquente. Ces réparations se font exclusivement sur la base de Nîmes, avec des délais parfois longs dus au manque de pièces détachées et d'un nombre réduit de mécaniciens. En cas d'incendie, les bombardiers disponibles dépendent donc du nombre d'engins en maintenance. Illustration par exemple dimanche, 4 Dash sur 6 seulement étaient en mesure de voler. Quant au Canadair, sur les 12, seulement 9 étaient opérationnels. Conclusion de l'article est très complet sur les moyens aériens. Le réchauffement climatique et la multiplication des incendies estivaux de grande ampleur en France représente un défi important pour les capacités de la flotte française, je crois qu'on l'a bien compris. Initialement conçus pour affronter les feux de forêt, les bombardiers doivent désormais aussi faire face à une diversité d'incendies dans les plaines, dans les récoltes. Face à ces problématiques qu'on est en train de constater ensemble ce matin, notre pays planche sur une potentielle modernisation de la flotte avec de nouveaux appareils, mais le prix est dissuasif. Chaque appareil représente un coût entre 15 et 20 millions d'euros. Alors Paris mise particulièrement sur le dispositif européen qui permet la mutualisation des commandes. Dans le cadre d'un achat continental, l'Hexagone va d'ailleurs recevoir deux nouveaux bombardiers Canadair d'ici à 2025. Je vous lis un petit peu sur ce sujet et on enchaîne avec un petit jeu actualité littérature de Libé. Alors pourquoi pas de vol de nuit ? Moi je ne sais pas, il y a Parlamont qui nous dit pas de vol de nuit parce qu'ils volent trop près du sol, c'est trop dangereux. Lucie Deschamps, Samuel, as-tu peur pour l'avenir de notre terre, notamment pour les enfants ? Oui, bien sûr, je pense comme beaucoup d'entre nous. Oui, Malo, dis-moi. Gaga écrit, je ne comprends pas comment on peut arriver en période estivale avec des avions encore en maintenance. Tout cela devrait être prêt quand l'été arrive. Je vous lis. Voilà. Merci Kayin pour le gentil message. Très sympa. Bon, beaucoup d'interrogations sur l'interdiction des vols de nuit de ces avions. Simtrain écrit pas de qualification pour voler aux instruments, je pense, pour le transit depuis Nîmes, mais voler au-dessus d'un feu de forêt de nuit, c'est l'accident assuré. Un problème de visibilité de. Et de relief la nuit, me dit Nox, bien plus dangereux et pourrait aggraver la situation plus qu'elle ne l'est déjà encore. Et vous êtes plusieurs à me dire que la fabrication de Canadair a été arrêtée par le constructeur. Alors a priori, elle a dû être arrêtée, mais elle ne l'est plus, puisque la France devrait recevoir de nouveaux Canadair d'ici 2025. Elle a peut-être repris cette production. Il y a Mother Bone, témoignage sur place, qui nous dit « Hello, j'habite à côté de la base où sont les Canadairs, donc dans le Gard, hein, c'est ça. Je les vois partir tous les jours, que ce soit pour la Gironde ou pour des départs de feu aux alentours. Ils partent quotidiennement, souvent par 3 ou 4. Et puis la Bretagne, bien sûr. Hein. TTLBZH, 8 incendies dans le Finistère hier. Celui des Monts d'Arrée actuellement, qui est dans le centre de la Bretagne, à peu près toujours en cours. Plus de 1300 hectares déjà de brûlés. Sachez que pour la Bretagne, c'est vraiment c'est très nouveau, hein, ces incendies de forêt en Bretagne, témoignage de la sécheresse des arbres et du sol. Isidade, merci pour le 10e mois d'abonnement. On reparlera des incendies tout à l'heure. Alors là, je vous montre l'article et je vous le cache aussitôt parce qu'on va se relaxer un petit peu l'esprit puisqu'il s'agit du petit jeu lancé hier par Libération. Libé publie chaque jour un portrait d'une personnalité qui a déjà été diffusée dans le passé, en enlevant l'identité de la personne dans le papier et les indices les plus importants, pour que le lecteur puisse tenter de trouver, sachant que la réponse est donnée le lendemain. Hier, on cherchait... J'ai encore oublié. C'est hyper original. Brigitte Fontaine. Aujourd'hui, on cherche qui ? Alors, je surveille le chat. Le premier à me donner ou la première gagne toute mon estime. Chanteuse, acteur, femme politique, écrivain, devinez l'identité de madame ou monsieur Der, parce que Der, dernière page, hein, quatrième de couverture. Voilà. À l'aide des indices qui subsistent dans le texte, soigneusement anonymisés et caviardés, c'est-à-dire qu'on a enlevé des choses. Oui, je vous ai enlevé l'article exprès parce que certains sont des petits malins et zooment, je sais pas comment, voilà, et vont voir les indices de la fin de l'article qui sont les plus importants. Donc, je vous ai enlevé l'article. Parce que hier, vous avez trouvé beaucoup trop vite. Voilà pourquoi je ne vous ai pas mis l'article. On dirait qu'il boude dans son décor trompe-l'œil. Son dernier livre débute au soir d'un deuxième tour aux allures de plébiscite républicain et s'invite dans les salons élyséens d'une plume qui semble familière. Fausse piste. L'idée n'est pas de lui. L'écriture n'est pas son truc, ce qui ne dément plus que très mollement d'un « on n'a rien compris à mes méthodes de travail ». Qui pourrait dire ça ? C'est pas Sarkozy. Les signes extérieurs de sa richesse ressemblent désormais à des caches-misères Exemple, ces costumes croisés, c'est à cause de mon ventre. Donc on parle de quelqu'un qui écrit, mais qui écrit pas vraiment, et qui a des costumes croisés et qui a un gros bide. Sympa, les gens qui proposent François Hollande, c'est pas très gentil. Les cadres de ne lisent plus Monsieur Der, ils achètent Match, Paris Match en cachette, vous l'avez pas, c'est pas Depardieu. C'est pas un écrivain Depardieu. Il y a tout sur le divorce de Monsieur Der, un petit Dallas franco-canadien, mariage il y a 9 ans, c'est un article de 2002. Chirac à la mairie, Johnny et Lynn Renault comme témoins, et tout se dégrade. Quand Monsieur Der est mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence dans l'affaire Falcon, marchand d'armes vers l'Angola. Voilà, avec Google, là, vous allez trouver tout de suite. Il fut un homme désagréable. Ouais, c'est trouvé. Ah, bravo. Alors, voilà, dès qu'on a parlé de l'affaire Falcon, SGD 246 et XIR 42 me donnent Paul Lou Sulitzer. Les plus jeunes ne connaissent pas, mais c'est exactement lui, c'est écrivain. Alors, écrivain un peu particulier, et on va détailler d'ailleurs la suite du personnage dans la suite du portrait, mais bravo à vous deux, SGD et Exir, vous êtes les deux premiers à avoir trouvé. Et derrière, ça enchaînait, hein. Yordine, Tetel Bezedash, voilà, vous l'aviez, Sulitzer. Voilà, Paul Lou Sulitzer. Alors, Breakhorn, jamais entendu parler, c'est la jeune génération, je pense que vous ne connaissez pas ce personnage, qui est vraiment un personnage, vous allez voir. Donc, on en était là. Il fut un homme désagréable, puant, se souviennent même certains, mais ce jour-là, pour le portrait, il fait figure humaine, touché par l'échec comme d'autres par la grâce. Manifestement, ça va moins bien aujourd'hui que ça n'a été. Le téléphone sonne peu, il ouvre un attaché case en cuir, le genre de mallette pleine de billets qui circule dans ses livres. On sort une chemise cartonnée remplie de photos couleurs et en noir et blanc, lui, bel enfant, peigné, ses parents qui posent sous un arbre la photocopie d'une vieille carte de famille nombreuse. J'ai sauvé ça du divorce. Ça, bribe de l'enfance, l'ombre d'un père, son héros, immigré, juif de Roumanie, qui fait fortune en créant une entreprise de remorque, se distingue pendant la résistance et meurt subitement alors que son fils n'a que 10 ans. À 16 ans, Paul Lou Sulitzer, puisque c'est de lui dont il s'agit, quitte le lycée, accumule les petits boulots, se lance dans l'import, fait fortune grâce à des porte-clés. Zigo Toto dit, c'est pas vraiment lui qui écrivait ses romans, exactement, c'est tout à fait ça. Il devient le plus jeune PDG de France, donc c'est à la fois un businessman et un écrivain, entre guillemets. Un PDG qui inspire les éditeurs. Le voilà en charge des westerns financiers. Voilà. Il sait les vendre et payer le silence de ceux qui les écrivent. Donc il écrit des genres de romans, de fiction autour de la finance, qu'on appelait des westerns financiers. Sauf qu'on s'est très vite rendu compte que c'est pas lui qui écrivait ses romans et qu'il payait des gens pour le faire. Voilà. C'est une époque où il se déguise en requin, il allume un cigare avec un billet de 500 francs. Voilà. Il a eu écrit Libération à l'époque, le génie du factice, ni écrivain, ni vrai requin, ni économiste, ni vrai puissant. C'est vrai qu'à une époque, c'était une star, hein. Et aujourd'hui que le décor se gondole, reste une caricature assez naïve qui s'accroche et il dit « Ma femme a pris les œufs, pas la poule, je ne suis plus un homme riche, mais je le redeviendrai. » Voilà, Paul Lou Sulitzer. Je vois que certains, ça rappelle des souvenirs. Il y a Chani qui dit « Les années 80, l'époque des usurpateurs. » Voilà. Voilà donc l'article dont je vous parlais. Une fraude quoi, dit Karok. Bah oui, si, un petit peu. Il y a Raoul qui dit vous brisez un mythe, je ne savais pas qu'il n'écrivait pas. Franchement, j'aurais préféré qu'on continue à parler des incendies que de faire l'éloge funèbre de Paul Lou Sulitzer, dit Yoaskan. Arrête, c'est drôle de chercher. On croit qu'il n'est pas mort en plus. Hein. Voilà. Graken fait ref à la chanson de Souchon. De Souchon. Hein, on nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lou Sulitzer, chanson de Souchon. Maintenant, je sais enfin qui c'est Claudia Schiffer, je savais déjà. Exactement. Bien joué. Et c'est pour ça que je vous ai enlevé l'article, parce que le titre nous mettait un peu sur la voie, il y avait quand même un gros indice. Hein. Lou n'y est plus. Lou, il n'est pas mort. Voilà, il n'est pas mort. Mais c'est vrai, Drone Gamer dit il a fait un AVC, je crois, il ne va pas spécialement bien. J'ai vérifié avant, mais je crois qu'il n'est pas décédé. Donc, c'est pas vraiment un éloge funèbre. Du Graff, oui, on a rendu un hommage à Denis au début de ce stream. On a lu deux articles consacrés à la chanteuse qui nous a quittés la nuit dernière à l'âge de 77 ans. Et on en reparlera demain, sûrement dans Libération. Notamment, on a même écouté un extrait de Boomerang, comme un boomerang avec Étienne Dao. Allez, on enchaîne. 1h45, je vais peut-être aller me chercher un petit café quand même. On lira l'opinion avec un truc, un papier très intéressant sur le Sénat qui va peut-être retrouver du lustre à la faveur de la nouvelle donne politique en France. On fera un petit point sur le Tour de France parce que c'est un petit peu une dinguerie ce qui se passe en ce moment, il y a un vrai suspense. On souhaite le meilleur aux Françaises, on en a fait un petit jeu tout à l'heure, quart de finale de l'Euro dans quelques jours. On se penchera sur le dernier match de poule des Françaises, un partout contre l'Islande. On reviendra avec la croix sur les incendies, mais avec la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se produise, reproduise. La croix qui insiste sur la prévention, prévention qui est insuffisante. On parlera des glaneurs dans les poubelles, ceux qui vont chercher notamment des produits alimentaires dans les poubelles, notamment de la grande distribution par nécessité ou par conviction. Et puis on se penchera sur les vacances des Français, ou plutôt, avec l'humanité, sur ceux et celles qui ne partent pas en vacances. Le dernier papier, on parlera aussi des tracances, néologisme intéressant, dernier papier sur cette bonne nouvelle pour le budget de l'État. Un gain surprise de 8 milliards pour les comptes publics grâce aux sous qui viennent de l'éolien. Et ça, c'est une double bonne nouvelle. Allez, je vais me chercher un petit café pour relancer la machine parce que je sens que les neurones sont en train de se ralentir. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été là pour cette première partie. La deuxième partie de la revue de presse de la matinée Étienne arrive dans un instant. On se remet la petite musique de la dernière qu'on a écoutée là. Get There, Nicolas Rage, parce que c'était plutôt sympa. Et on se retrouve dans 3 minutes. Max, avec le plein de café et le plein d'énergie pour lire la suite des articles. Merci d'être là. Je vous dis à tout de suite. Et une petite pub pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est une autre façon de soutenir. Ne m'en voulez pas. À tout de suite.
Solid emotion.
Il n'y a plus de musique ?
Ah.
Ça va vous ? Tardé. En ce moment, je suis pas très concentré. Je me fais des cafés, mais j'oublie de mettre le café. Alors, ça fait de l'eau, et après, il faut que je recommence. Par contre, bonne nouvelle, j'ai retrouvé les Chris Prolls. Merci, Hugo, pour tes premiers messages. J'ai l'impression que tu viens d'arriver sur la chaîne. Merci pour ces premiers messages très intéressants. Tout va bien, Hugo, ça va bien se passer. Alors, vous, ça va ? Allez, on est à 1h53 stream, et on est qu'à la moitié. On continue avec la suite des articles. Pas de soucis, Hugo, pas de soucis. Ah, voilà mon papa qui arrive. Ça va, papa ?
Oui. Je voulais te dire deux choses. La première, c'est que hier, j'ai totalement oublié de te remercier.
À tout de suite. Excusez-moi les amis, alors l'alerte enfant n'est pas... Oui papa, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, non je parlais aux gens qui sont avec moi là pour le stream. T'inquiète pas. Oui, mais on en reparlera d'ici la fin de la semaine, t'inquiète pas. Bisous papa. Donc là, oui, cette scène enfant n'est pas tellement... voilà, il n'y a pas papa sur cette scène, puisque papa ne vit en Bretagne et moi à Paris, donc il passe assez rarement une tête dans le stream. Mais là, il est avec moi en Corse et donc il n'est pas dans cette scène d'alerte enfant. Mais il n'empêche que je suis très content qu'il soit avec nous. Et là, il est venu me faire un petit coucou rapport au dîner. On s'est fait un petit resto hier soir tous ensemble et il a bien aimé. Voilà. Et je suis content parce que bon, bah, il est plutôt jeune, mon papa. Mais je crois qu'il passe un bon moment là. Il est super reposé et ça lui fait du bien. Et je crois qu'il aime bien la chaleur. Voilà. C'est un breton quand même, donc c'est pas mal. Voilà, il est heureux d'être là et ça fait super plaisir. Mais vraiment, quoi. Voilà. Non, il fait pas un quiz. Il fait un quiz. Mais je vais lui proposer. Je vais lui dire que vous avez émis l'idée que lui aussi fasse un quiz. En vrai, s'il fait un quiz sur le poisson, papa, il était poissonnier. Il pourrait vous faire un quiz sur le poisson. Ah ben, les grands esprits se rencontrent. Il y a Redhoven qui vient d'écrire dans le chat un quiz sur le poisson. Et Ducati et Macaron aussi. Ah, bon, en fait, vous savez que mon papa est poissonnier. J'en ai déjà parlé. Je l'adore. Et un quiz poisson serait drôle. Ce serait drôle. Bon, pardon pour la petite pause, mais papa, la famille, c'est plus important que tout. Tout va bien, le café est là, le Crisp Rolls a été retrouvé, papa est en forme. Hélène pourrait faire un quiz sur l'horlogerie, pour répondre à la question de Mme Gwanag, puisque Hélène travaille, et c'est une passion pour elle, dans le secteur de l'horlogerie. C'est une horlogère. L'opinion avec cet article très intéressant que je n'ai lu nulle part ailleurs, sur le Sénat, qui pourrait voir son rôle, comment dire, on va dire revigoré, à la faveur de la nouvelle donne politique, je m'explique. Processus législatif, le Sénat, désormais en position de force, est extrêmement intéressant. Que dit cet article ? Hop. Voilà. Que l'absence de majorité relative, enfin non, l'absence de majorité absolue plutôt. Ah, c'est, ils ont fait une coquille, c'est mignon. Même les bons journaux peuvent se tromper, regardez. Je lis, c'est pour ça que j'ai fourché, parce que en fait, le journal fourche aussi. L'absence de majorité relative à l'Assemblée nationale va donner un rôle primordial au Sénat. Non, ils ont voulu écrire l'absence de majorité absolue, parce que le gouvernement a une majorité, mais relative justement. Ça arrive même au meilleur, la preuve. Donc je corrige, l'absence de majorité absolue à l'Assemblée va donner un rôle primordial au Sénat, où la majorité, les Républicains, est en force, et le Sénat, où se fera de facto l'écriture de la loi. Alors ça, c'est intéressant. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu au fonctionnement de la Constitution, donc il y a deux chambres dans la Ve République, l'Assemblée et le Sénat. Les députés qui sont élus au suffrage direct, hein, législatif, les sénateurs que vous n'élisez pas, puisque les sénateurs sont élus par un collège de grands électeurs, qui sont notamment les élus locaux. Voilà. Donc il n'y a pas d'élection directe pour élire les sénateurs. On dit que régulièrement, il y a des polémiques sur à quoi sert le Sénat. Le Sénat ne sert à rien, blablabla, ça coûte des sous, une deuxième chambre, alors qu'on a déjà des députés pour voter l'Assemblée. Et puis les tenants du Sénat, ceux qui défendent l'existence du Sénat, disent « Ah oui, mais non, mais c'est bien d'avoir une deuxième chambre dont la couleur politique n'est pas forcément la même que l'Assemblée, ce qui permet un équilibre, voilà, des échanges, des discussions, puisque les textes de loi passent d'une chambre à l'autre et il faut qu'ils soient votés dans les mêmes termes. Sauf que la Constitution de la Ve dit « S'il y a un désaccord, en gros, entre les deux chambres, j'ai donc nommé l'Assemblée et le Sénat, qui n'est pas réglé par ce qu'on appelle la CMP, la Commission Mixte Paritaire, et bien dans ce cas-là, le dernier mot revient à l'Assemblée. Donc vous avez deux chambres, mais une qui a plus de pouvoir que l'autre. Ce qui est très intéressant dans cet article de l'Opinion, c'est que l'Opinion nous dit, eh bien à la faveur de la nouvelle donne politique avec la majorité relative à l'Assemblée, eh bien le Sénat pourrait retrouver un rôle important et du lustre dans le vote des lois. What ? Explication. Vachement intéressant. Processus législatif, le Sénat désormais en position de force. Alors que tous les regards sont tournés vers l'Assemblée, le Sénat serait-il en train de prendre la main sur l'écriture de la loi ? Je trouve ça passionnant. Vous allez dire, il n'y a que moi pour me passionner pour ce genre de truc, mais bon, c'est comme ça. Le Palais du Luxembourg examine cette semaine le projet de loi sanitaire, amputé d'un article clé lors de son passage à l'Assemblée. D'accord ? Donc c'est comme ça, hein. Un texte est voté par l'Assemblée, après il passe au Sénat. Voilà. Après, et puis après il revient. Il est hors de question de rétablir l'article supprimé tel que le gouvernement l'avait rédigé, a déjà prévenu Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. On va le réécrire. On va le réécrire. Réécriture de l'article qui va déboucher sur un texte différent de celui sorti de l'Assemblée, ce qui va entraîner la convocation de quoi ? De ce que je vous disais, une CMP, une commission mixte paritaire. Quand les deux chambres votent un texte, mais pas dans les mêmes termes, on réunit une commission mixte paritaire qui réunit des représentants des deux assemblées, c'est plutôt bien foutu, et ces gens-là essayent de s'entendre en fait pour arriver à un texte commun. Sinon, si ça ne marche pas, ça revient à l'Assemblée. Enfin, et c'est un peu le bordel. Donc, CMP, ce sera jeudi matin. Dans cette instance, la CMP dont je vous parlais, composée de 14 parlementaires, 7 députés et 7 sénateurs, il y aura, comme on dit l'opinion, la majorité, entre guillemets, ne sera plus majoritaire qu'à l'Assemblée. Autour de la table de la CMP, il y aura 5 parlementaires LR et centristes, d'accord ? 5 parlementaires ensemble, seulement, ai-je envie de dire, 2 sénateurs PS, 1 député NUP et 1 député RN. Vous voyez donc que la droite, dans une CMP, a beaucoup plus de poids que à l'Assemblée, d'accord ? Et a le même poids, par exemple, que la majorité relative ensemble à l'Assemblée. Donc, nouvelle donne. Dans ce huis clos de la CMP, dans cette commission mixte paritaire, le camp présidentiel devrait accepter l'article 2 de la loi sur le Covid tel qu'il aura été réécrit par les sénateurs. Si un accord est trouvé entre LR et la majorité au sein de cette CMP, pour tous ceux qui suivent, hein, encore faudra-t-il que le texte approuvé en CMP soit ensuite voté par les deux chambres, puisque l'accord au sein de la commission mixte paritaire ne suffit pas. Après, il faut que l'accord soit voté dans les mêmes termes par les deux chambres. Or, ce que pense l'opinion, c'est que le Sénat va suivre, va voter le texte qui a été décidé en CMP, puisque les sénateurs l'auront réécrit un petit peu à leur sauce. Et à l'Assemblée, on peut imaginer que les députés LR vont aussi voter le texte, puisqu'en gros, il aura été réécrit par leurs collègues LR du Sénat. Tout le monde suit toujours ? En revanche, c'est là où ça se complique, si la CMP n'est pas conclusive, c'est-à-dire si le texte qui a été trouvé par la commission mixte paritaire n'est pas voté dans les mêmes termes à l'Assemblée et au Sénat, eh bien, tout recommence. Le texte repart à l'Assemblée. Voilà. Alors, ce que pense l'opinion, c'est que il n'est pas impossible quand même qu'il y ait plein de CMP, plein de commissions mixtes paritaires et plein d'accords qui seraient trouvés comme ça à travers finalement la réécriture des textes par une CMP qui est un peu dominée par la droite, LR, en raison du fait que la LR, ils ont la majorité au Sénat, et un gouvernement qui, depuis le début, du côté du président comme du gouvernement, tend la main justement à ses députés et sénateurs de droite, vous l'avez compris, pour faire passer ces réformes. Bon, c'est la première fois que je vois un papier là-dessus. Alors du coup, ça fait plaisir aux sénateurs. Hein. Le Sénat, je cite, qui a un problème d'inutilité permanente, c'est le débat toujours en raison de la règle qui donne à l'Assemblée le dernier mot, à quoi sert le Sénat ? Eh bien, le Sénat, pendant ces 5 prochaines années, sauf dissolution de l'Assemblée, bien sûr, va écrire la loi. Analyse Jean-Jacques Urvoas, qui est un ancien ministre, qui est un spécialiste de droit parlementaire. Il souhaite fondamentalement que son apport à la loi soit visible. Il est donc très porté à la discussion. C'est étonnant. Je trouve ça étonnant. Alors, c'est un peu pointu. Il faut un peu se passionner pour le droit constitutionnel et sur la poétique française. Mais c'est vraiment intéressant. Ça remet le Sénat au centre du jeu, quoi. Je vous lis là-dessus. Est-ce que c'est clair pour vous ? Qui sera le... Qui, docteur Ou, pose la vraie question d'actualité, c'est qui va gagner les 230 millions d'euros à l'euro-million ? Ce n'est pas la peine de jouer. Je crois que le tirage au sort a lieu ce soir, parce que c'est moi. Hein, c'est moi. Les 230 millions d'euros, c'est moi. Et je serai là quand même demain, hein, même si je les gagne. Hein. Voilà. C'est même pas la peine de jouer. Alors, je vous lis hein, sur le Sénat. Oh non, il y a Chip Opopotam qui dit « On est d'accord que de base, le Sénat corrige juste les textes sans en changer le fond. Normalement, il ne rajoute que des précisions. » En gros, pas du tout. Le Sénat, ils peuvent se lancer dans une bataille parlementaire en ne votant absolument pas le texte qui vient d'arriver de l'Assemblée, en le réécrivant complètement, en rajoutant plein d'articles. Le problème, c'est que dans la Constitution, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc le Sénat peut tout changer s'il le souhaite. Au final, c'est l'Assemblée ou le gouvernement, s'il utilise certains articles de la Constitution, comme le 49.3 par exemple, qui aura le dernier mot. Jamais le Sénat. Donc le Sénat a un vrai pouvoir, mais qui est limité. Donc on n'est pas sur un pouvoir technique, quoi. Je vous lis, hein. Ah oui, d'ailleurs, Wiz, merci pour la précision. Sauf sur les réformes constitutionnelles où là, les deux chambres doivent être d'accord, dans les mêmes termes, exactement. Ouais. Allez, je lui ai encore deux messages là-dessus pour voir. Samuel, si tu gagnes les 230 millions d'euros, tu nous subs, on est d'accord. Bah oui. Demain matin, si vous voyez que j'offre des subs à l'intégralité des viewers, vous pourrez en déduire qu'effectivement, j'ai gagné les 230 millions d'euros. Ouais. Oui. Ouais. Bon, ça vous inspire pas trop la CMP là. Il y a que moi qui me passionne pour ce truc là. Oui, oui, c'est aujourd'hui l'euro million, mais ne votez pas. Ne votez pas puisque c'est moi qui gagne. C'est ce que j'ai prévu en tout cas. Allez, l'équipe sur une actualité sportive cet été qui est, comme souvent l'été, assez passionnante. On a deux grandes compétitions en ce moment, le Tour de France, bien sûr, la Grande Boucle. Je commence à m'y intéresser d'ailleurs, c'est bien. Oh. Il y a Malo qui embête son petit frère, je reconnais le son. Donc on a la Grande Boucle, le Tour de France, avec un vrai suspense, puisque l'archi-favori Pogacar est un petit peu mis en difficulté par... le jeune Danois Vingegaard qui est actuellement en jaune, qui est à gauche ici. On se chamaille du côté de Malo et Solal et on se chamaille aussi entre les deux. Duel au sommet, on arrive dans les Pyrénées. Et puis l'autre belle compétition, c'est l'Euro féminin de football. Je suis content, j'ai de moins en moins de commentaires dans le chat en mode « Ah, le foot féminin, on s'en fout, c'est pas intéressant, différence de niveau et tout ça ». Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser et à prendre conscience que les stades sont de plus en plus remplis et il y a de plus en plus de téléspectateurs, notamment, à regarder les matchs de foot féminin. Notamment, il y a très bonnes audiences sur TF1 et sur Canal+, pour ces matchs de l'Euro féminin quand l'équipe de France joue. Vivement samedi, pourquoi ? Parce que c'est quart de finale. Voilà. Donc, on va lire tout ça. On commence par le foot, d'ailleurs. Samedi, quart de finale contre les Pays-Bas. Hein. Vivement samedi, titre l'équipe. Après le dernier match, le troisième match de poule des Françaises, deux victoires, première victoire 5-1 contre l'Italie, deuxième victoire 2-1 contre la Belgique, je crois, et match nul hier soir contre l'Islande qui a joué sa chance puisque l'Islande, en cas de victoire, eh bien, sauf erreur de ma part, se qualifiait pour les quarts de finale. Le match nul n'a pas suffi et du coup, je crois que ce sont les Belges qui vont en quart de finale. Penchons-nous un petit peu sur le match des Françaises. Merci beaucoup Graken H2S qui vient d'offrir un nouvel abonnement à la communauté. Avec un 11 remanié, puisqu'on a hélas Marie-Antoinette Katoto, notre très forte attaquante qui est blessée jusqu'à la fin de la compétition. Donc 11 remanié. L'équipe de France a concédé le nul contre l'Islande hier, rencontre qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, nous explique l'équipe, avant un quart de finale qui s'annonce brûlant face aux Pays-Bas. Moi je vais regarder ça, ce sera samedi soir. Merci Frisket Other, ça me fait plaisir. Les Bleus, déjà assurés d'y rencontrer les Pays-Bas samedi en quart de finale, ont joué le jeu pour tirer des enseignements contre l'Islande. C'était pas un match complètement pour du beurre pour les Françaises. Il fallait essayer de trouver des réglages à même de poursuivre le plus loin possible la compétition. Avec une recette désormais immuable, donner un énorme coup de fouet d'entrée, c'est un peu la signature des Bleus dans cette compétition, pour faire monter la patte. Contre l'Italie, elles ont marqué très très tôt. Contre les Belges, elles ont marqué très très tôt. Et là, elles ont marqué au bout de 43 secondes, les Françaises, grâce à Melvin Mallard, qui a fait un très beau match, qui ouvre le score après un superbe redoublement de la passe avec Clara Matteo, autre joueuse extrêmement intéressante. Clara Matteo, qui est ingénieure par ailleurs. J'ai lu son portrait ce matin dans un journal, c'est, je ne sais plus où, mais c'est vachement intéressant. Clara Matteo. Et Melvin Mallard, donc retenu par Corinne Diacre, la sélectionneuse. Et l'équipe parle de Corinne Diacre parce qu'on attendait avec impatience de savoir quel serait le choix de Corinne Diacre pour remplacer Marie-Antoinette Katoto, dont je vous parlais, notre attaquante, notre buteuse, qui est blessée, gravement même, hein, et qui donc est sortie de la compétition. Et donc, elle a choisi de titulariser Melvin Mallard, ce qui était un peu une surprise, la jeune attaquante lyonnaise de 22 ans, mais qui a très bien jouer sa chance avec donc le but que j'évoquais et plusieurs appels tranchants et une grande mobilité au-delà de son but puisqu'elle a fait un doublé mais le VAR a refusé ce deuxième but. Donc égalisation des Islandaises, ce but islandais a privé sur le fil les Bleus d'un sans faute, hein, trois matchs et ça aurait été trois victoires et surtout d'un record, un record de victoires puisque le nombre de matchs soldés par des victoires d'affilée est arrivé ici à 16 et on était à une unité des 17 qui était le record des Françaises conquis entre août 2011 et juillet 2012. Il s'en est fallu d'un match. Bon, maintenant, tous les regards sont tournés vers le quart de finale de samedi. Je vous lis un petit peu sur le foot. Alors, je vous lis, hein. Par exemple, il y a Brawix qui estime que, à son avis, le foot féminin manque encore d'attractivité par rapport à d'autres sports, manque de spectacles. Bon, sachez qu'en tout cas, si on regarde les chiffres de fréquentation des stades et des audiences des matchs, notamment des Françaises, les chiffres montrent qu'il y a un engouement qui est de plus en plus important autour du foot féminin. On dit que les chiffres ne mentent jamais. Un peu de vélo aussi. Avec ce Tour de France qui devient de plus en plus intéressant, à mon humble avis, avec Jonas Vingegaard, le Danois, qui a, nous rappelle, l'équipe renversée, l'ultra favori Tadej Pogacar dans les Alpes, le Slovène qui est revanchard et qui derrière attend maintenant les Pyrénées avec impatience pour prendre sa revanche. Et l'équipe qui donc attend les Pyrénées et qui du coup. Se penche aussi sur quelques questions. À l'instant, il y a Déa qui s'interroge, est-ce qu'on va finir par un tour sans aucune victoire française ou bien? Eh bien, je ne sais pas si ça va te rassurer, mais l'équipe pose la question, est-ce qu'un Français va finir sur le podium? Là, on parle de classement général, mais pas de victoire d'étape. Et selon l'équipe, oui. Je ne sais pas si c'est un vœu pieux ou de la méthode Coué ou si c'est un espoir fondé, mais en tout cas, pour l'équipe, entre David Godu qui est 8e actuellement, ou Romain Bardet, 4e à 18 secondes. Ah, il a 18 secondes, Bardet? Classement général? Non. À 18 secondes du troisième. Ah ouais, je me disais, il n'est pas à 18 secondes du maillot jaune, je ne comprenais pas. Ouais, 18 secondes du troisième. Ouais, du podium. Ouais, je me posais la question. Donc, effectivement, c'est jouable. Et puis, est-ce que les abandons chez Jumbo, qui est l'équipe du maillot jaune. Vingegaard surchute récemment, change la donne. Eh bien oui, nous répond aussi l'équipe avec une équipe Jumbo qui s'est affaiblie et qui ne va peut-être pas pouvoir soutenir Vingegaard jusqu'au bout, jusque sur les Champs-Élysées en maillot jaune. C'est l'analyse de l'équipe à suivre puisque rien n'est joué. On n'est qu'à la 16e étape et arrivent les Pyrénées qui vont sans doute être décisives. En tout cas, il y a un joli spectacle sur cette grande boucle. Ah, oui, il y a le contre-la-montre aussi. Il y a le contre-la-montre. Il y a le contre-la-montre aussi. Ah, Van Vaart, tu as raison. Et Van Vaart qui nous rappelle que les Français sont pas très très bons en contre-la-montre. John Doe dit la même chose. Ah! Et que le contre-la-montre va peut-être nous jouer des mauvaises surprises alors. Ah! Ah, c'est pas mal. Info augmentée, je donne des infos, vous m'en donnez d'autres. Et du coup, le résultat. Ancienne joueuse. Annie, t'as joué au foot? Annie, tu es une ancienne joueuse? Mais genre pro de football? Excellent. Ouais, le contre-la-montre qui va être crucial. Pogacar avait repris 57 secondes en 2019. Dit Steph qui a une bonne mémoire. Effectivement, l'équipe le dit ça. Mais j'apprends aussi que le Danois, grâce à l'équipe, hein, moi je ne le sais pas, je ne le savais pas ce matin, est aussi très fort en contre-la-montre et récemment dans une course a battu Pogacar justement en contre-la-montre. Donc Annie me confirme qu'elle a été joueuse de football. Intéressant. Voilà, Yannou le sait aussi, c'est Vingegaard ne prendra pas une minute sur le chrono, il n'est pas mauvais. Ouais. Ouais. Ok. Merci Annie pour les précisions, mais c'est intéressant de voir que tu as joué. Très bonne question de Camillo 56, est-ce qu'il faut avoir des grandes oreilles pour faire partie de l'équipe Jumbo? Je valide. Je valide. Allez, on revient sur les incendies. Mais avec un autre éclairage, puisque je vous sélectionne des articles qui ne disent pas tous la même chose, sinon ça n'aurait aucun intérêt. La une de la Croix, lutte contre les incendies, l'affaire de tous. On pourrait tous, nous dit la Croix, par notre comportement, en tout cas si on vit ou on passe dans la région, eh bien, participer à cette lutte contre les incendies. Contre le réchauffement climatique, c'est une évidence, mais contre les incendies aussi. Alors que les incendies risquent de se multiplier à l'avenir, toutes les méthodes de prévention doivent être envisagées. Écrit ce matin la Croix. Face à des incendies plus fréquents, plus puissants, les moyens matériels sont indispensables mais insuffisants. La prévention, c'est le mot clé de l'article. La prévention qui va de l'aménagement global des forêts, comme du simple débroussaillement, à la sensibilisation du public, doit aider à prévenir les départs de feu. C'est intéressant. Lisons. Les incendies en cours en Gironde rappellent la vulnérabilité des forêts françaises face à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Alors que le réchauffement climatique va renforcer ce risque, plusieurs pistes sont à l'étude pour le réduire. Première piste, renforcer les moyens de lutte. La France dispose actuellement, on en a parlé tout à l'heure, de 18 bombardiers d'eau, 12 canadairs d'air et 6 Dash, Dash qui n'a rien à voir avec le Dash de Zerator, c'est un autre, même si ils sont tous les deux très forts. S'y ajoutent 2 hélicoptères lourds et 3 avions de reconnaissance. Cette flotte est basée sur l'aéroport de Nîmes-Garon, dans le Gard, on en parlait, choix historiquement lié à la surexposition du quart sud-est de la France au risque d'incendie. À l'occasion des 2 grands feux en cours en Gironde, c'est en ce moment, hein, ce positionnement a été questionné. Des élus locaux ont souligné, on leur a donné la parole tout à l'heure, le manque d'appareils engagés et leur arrivée tardive dans le Gard, puisqu'il faut 2 heures.
Papa,
tu veux la piscine? Ok, bah, je me dépêche alors. Ok, mon chéri. Tu manges une banane? Elle est grosse. Elle est grosse, hein. Il est chou. La banane presque plus grosse que lui. Donc 2 heures de vol pour un Canadair depuis le Gard pour arriver en Gironde, 1 heure pour un Dash, alors que la rapidité d'intervention est cruciale face à un feu de forêt. Le débat n'est pas nouveau, mais son acuité se renforce avec le réchauffement climatique qui multiplie les risques. Étant les zones géographiques concernées, il faut maintenant disposer de moyens aériens à l'échelle nationale, dit par exemple Jean-Pierre Vogel, sénateur LR de la Sarthe, et qui a fait un rapport sur la question en 2019. Sur la question, je veux dire, sur les feux de forêt. Maxent FR, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Et le très gentil message. Le parlementaire alerte aussi sur le vieillissement de la flotte d'avions dont on a parlé, qui a 25 ans de moyenne d'âge. Autre piste, la prévention. Mieux aménager les massifs forestiers. La lutte contre les incendies forestiers se joue aussi au sol. Pour éviter que les feux ne prennent trop d'ampleur et ne débordent les pompiers comme c'est le cas en Gironde, des aménagements peuvent ralentir les flammes, faciliter le travail des hommes. Des pistes sont tracées, des citernes sont installées, des coupe-feux sont taillés. Cela demande aussi beaucoup de travail d'entretien et des passages très fréquents. Or, tout n'est pas toujours fait dans les règles de l'art des systèmes de défense de la forêt française contre les incendies, les DFCI. Il y a parfois moins de moyens dans les forêts privées que dans le public, par exemple, note un responsable de l'ONF. Il existe des plans départementaux de DFCI avec des schémas stratégiques, mais ils ne sont pas contraignants, ça n'est pas une obligation. Avec le réchauffement climatique, estime Lacroix, ces aménagements dans les forêts vont probablement devoir être généralisés dans tout le pays, et pas seulement dans certaines régions. Bimbo Jet, joli pseudo, merci pour le 5e mois d'abonnement. On sera nulle part à l'abri, dit le responsable de l'ONF. Il faut préparer tous les massifs forestiers de France à cette éventualité, avec des pare-feux, avec des citernes, avec du débroussaillement. De même, l'obligation de débroussaillement des particuliers autour des maisons ou des commerçants, des entreprises autour des locaux professionnels devraient être progressivement étendues à toutes les régions. L'idée, c'est que chaque maison puisse être en mesure de s'auto-protéger. Alors, ça fait 2 volets. Renforcer, parce que c'est bien beau de se lamenter et de dire oh, c'est grave, c'est une catastrophe, comment on en est arrivé là, mais je trouve la démarche de Lacroix intéressante de nous dire bah, y a des pistes, les voici. Première piste, renforcer les moyens de lutte, ok, ça on est d'accord. 2, mieux aménager les massifs forestiers, question de préparation, d'entretien. 3, renforcer, ben ça nous concerne, la sensibilisation du public. Chaque année, écoutez les chiffres, 80 à 90% des incendies sont d'origine humaine, sans qu'il y ait forcément d'intention malveillante. Jet d'étincelles sur un chantier, mégot lancé par la fenêtre d'une voiture. Les causes d'une catastrophe peuvent être multiples. Il faut marteler les mêmes messages de prévention. C'est ce que dit un Jean-Pierre Vogel qui est qui ? C'est un pompier ? Je ne sais plus qui c'est. Des gens, en tout cas, ce qu'il dit, voici, des gens n'ont absolument pas conscience des risques qu'ils font courir à la nature et aux pompiers. Depuis 30 ans qu'il mène des recherches sur le sujet, Éric Rigolo, j'aime bien ce nom, l'a également constaté, bien souvent les feux démarrent de zones d'activité humaine et pas au cœur des forêts. Le spécialiste cite l'exemple des bords d'autoroute. Il existe des dispositifs à mettre en œuvre, comme de petits murets en béton pour bloquer les mégots. Voilà. De même, l'incendie récent du massif de la Montagnette à proximité d'Avignon, provoqué par les étincelles de sabots de frein d'un train de marchandises, aurait pu être et aurait dû être évité grâce à la pose sur les roues de déflecteurs métalliques. Pour Éric Rigolo, qui ne rigole pas avec tout ça, cette approche est d'autant plus primordiale que les feux vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus puissants. Bien sûr, on a des moyens de lutte qu'il faut renforcer et moderniser, mais nous ne sommes pas assez dans la prévention et dans l'anticipation. Vous étiez plusieurs à me le dire ce matin. Une fois qu'un feu est parti, il est très difficile de l'arrêter. Le mieux est quand même de l'empêcher de partir. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Bon, déjà, on va prendre le réflexe tous de, pour ceux qui fument, ne plus jeter de mégots par la fenêtre quand on roule. Hein. Il y a beaucoup d'incendies qui partent de chantier aussi. Hein. Vincent 6e, l'autre jour, l'automobiliste devant moi jetait son mégot par la fenêtre. Que peut-on faire ? Bah, toi, à titre personnel, rien. Tu vas pas lui rentrer dedans avec ton pare-choc. Mais en revanche, sensibiliser les gens, parler autour de soi, notamment les fumeurs, installer pourquoi pas ces petits murets dont on parlait là, pourquoi pas. Je vous lis. Hein. Je vous lis. En Espagne, c'est verbalisé. Ou alors, arrêtez de fumer, me propose quelqu'un. M2PG, d'une pierre deux coups. Allez, on continue parce que la piscine m'appelle. Enfin, la famille dans la piscine, parce que moi, à la base, je ne suis pas très... pas très exposition de mon corps, de ma petite motte de beurre qui me sert de corps en ce moment au soleil, que je ne supporte pas, mais les enfants y kiffent. Donc, piscine dans un instant, mais il nous reste encore quelques articles à lire, notamment celui-ci dans La Croix que j'ai trouvé vraiment intéressant sur les glaneurs dans les poubelles. C'est pas nouveau, mais ça prend de l'ampleur et le dossier de La Croix moi, m'a appris plein de choses sur ceux qui, par choix ou par nécessité, glanent dans les poubelles. Vous allez voir que c'est parfois extrêmement organisé. Reportage de l'envoyé spécial en Isère de La Croix. Seul ou en collectif, de nombreuses personnes récupèrent aujourd'hui en France de la nourriture dans les poubelles des commerces par nécessité économique ou par rejet de la société de consommation. À Grenoble, la fratrie des glaneurs solidaires organise des collectes tous les lundis soirs. Ça va vraiment étonner. Ce lundi soir de juin, comme tous les lundis, ils se sont donné rendez-vous à 19h30. Il fait beau, ils sont une quinzaine, 5 en voiture. 5 voitures, ça va être une belle collecte, dit Charlie, 31 ans, qui distribue les tournées à l'assaut des poubelles des supermarchés de la banlieue de Grenoble. Charlie, qui a fondé la fratrie des glaneurs solidaires avec d'autres grenoblois en 2015. Là, il est 20h, le personnel vient de sortir les 4 poubelles du magasin. Charlie ouvre le couvercle. En sort un à un les sacs noirs qu'il dépose sur le sol. Penché ou accroupi, chaque glaneur se met alors à fouiller. Y a de tout, et en quantité, jambon, saucisse, lardon, saumon, crevettes, salade, tomates, cerises ou cellophane, yaourt, du lait en abondance, des œufs, des fruits, des légumes, jusqu'aux herbes aromatiques. La plupart de ces produits frais ont l'air en bon état. Depuis 2016 et la loi Garot sur le gaspillage alimentaire, les commerces de plus de 400 m² sont dans l'obligation de donner leurs invendus à des associations. Le problème, c'est que tous les magasins ne le font pas malgré l'obligation légale et que les associations ne viennent pas tous les jours ou ne prennent pas tous les produits. Résultat, c'est fou la masse de choses qu'ils envoient chaque jour à la benne, dit Charlie. Il y a des produits dont la date limite de consommation est toujours bonne mais qui ne sont plus vendables, parfois parce que l'emballage est abîmé. On récupère aussi pas mal de légumes qui ne sont pas beaux mais qui sont toujours très bons. Et puis on trouve un paquet de trucs dont la date est dépassée mais qui reste consommable. Pour faire le tri entre ce qui est encore mangeable et ce qui ne l'est pas, parce que quand même, il ne faut pas jouer avec sa santé, Charlie, qui précise qu'il n'a été malade qu'une seule fois en presque 10 ans de glanage, conseille de faire confiance à ses sens. Vous regardez d'abord à quoi ça ressemble. Une viande qui n'a pas une bonne couleur, bon, c'est poubelle. Un paquet qui est bombé parce que ça a fermenté, poubelle. Et puis quand vous ouvrez chez vous, vous sentez. Moi, je fais ça, moi. Je bouffe souvent des trucs limites, moi, même très limites. Dès que mon épouse a un doute sur un truc, une tranche de jambon, un yaourt et tout, parce que avec les enfants, elle ne veut pas prendre de risque, je la comprends, elle me le donne et en général, je le mange. Après, parfois, je suis malade, mais bon, j'aime pas gâcher. Donc, avec le nez, si l'odeur n'est pas bonne, vous n'insistez pas et puis vous pouvez goûter une petite quantité. Voilà. Vous faites ça, vous aussi, ou pas ? Moi, je fais ça, moi. J'adore bouffer les trucs hors les dates. Ouais. Ou si vous faites ça ou pas. Bon, parfois, je le paye derrière, hein, mais bon. Ah, je suis pas tout seul. Caroc, j'ai bossé pour Carrefour, c'est une catastrophe la quantité jetée. Le pire, c'est la viande. Waouh. Elisa, moi je sens tous les aliments, c'est carrément un toc. T'as raison de sentir. Moi je sens tous mes aliments, tous. Alors d'abord par plaisir. Voilà. Avant de, quand je suis au, hier, j'étais au restaurant avec mon papa. Quand je, avant, donc c'était un bon restaurant. Et avant de manger, je renifle tout, 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 tout. C'est un premier plaisir. Je bois pas beaucoup de vin, par exemple, mais le vin, c'est je passe un temps fou à le sentir avant. Vous êtes plein à sentir comme ça. Ma femme me laisse tous les trucs passer, dit Sadine Live. Bah, comme moi, comme moi, comme moi. Monsieur le chat n'aime pas vivre dans le danger, je préfère jeter que de devenir malade. Voilà. Moi aussi je fais ça, dit Delphine Bob, et des fois je vomis. J'adore. J'adore. Ok, bah vous êtes de la team. Ça teste bien après la DLC. Ok, d'accord, c'est cool. Elisa prend un exemple. Nous avons nourri chaque jour 40 à 60 personnes lors d'un chantier solidaire, rien qu'avec les fruits et légumes donnés par deux supermarchés. Ok. Je vois que ça vous inspire ce sujet. Plus que la commission mixte paritaire Assemblée Sénat de tout à l'heure. Hein. Alors, en farfouillant dans les poubelles, on discute un petit peu avec les glaneurs. Comment se trouve-t-on à récupérer de la nourriture dans les poubelles? Parce que c'est un peu surprenant comme ça. Réponse de glaneur. Pour moi, c'est économique, dit Carole, qui glane depuis 2015. J'ai travaillé comme assistante de vie, on gagne peu. Sans récup, je ne pourrais pas manger tout ce que j'ai. Je ne pourrais pas me payer ça, en fait. Clément et Stéphanie, qui touchent tous les deux l'allocation aux adultes handicapés, ben, disent la même chose. Avec la collègue de la fratrie et une autre récupération, on a à manger pour 2 semaines. Mais ces motivations matérielles viennent s'ajouter à d'autres qui sont plus, comment dire, plus en termes de conviction. On produit d'énormes quantités de nourriture qui, au lieu d'aller à ceux qui en auraient besoin, se retrouvent jetés avec leur emballage. C'est complètement fou, alerte Clément. Je suis contente de participer à quelque chose qui lutte comme ça. Un peu plus tard dans la soirée, Julie, qui travaille chez un courtier d'assurance, donc, qui a les moyens d'acheter dans les magasins, mais ne le fait plus car elle souhaite réduire sa participation à l'économie capitalistique. Pour tout ce qui est consommable, j'essaie de vivre de façon alternative, dit-elle. Le papier est sur 2 pages, voici la deuxième. Au bout de 15 minutes de collecte, comment ça fonctionne? C'est vachement intéressant. 4 cabas sont déjà pleins, Carole va demander un balai à la supérette, on laisse tout propre, c'est la règle numéro 1, dit Charlie, on ne casse pas, on ne touche pas aux caméras de vidéosurveillance, on ne vole pas, même si on tombe sur une réserve. Si les glaneurs à pied se servent dans les poubelles mises sur le trottoir, les équipes en voiture sont parties à l'assaut de bennes immenses des grandes surfaces, souvent protégées par des murs et des barrières, que les membres de la fratrie n'hésitent pas à escalader, à leur risque et péril. Certes, la récupération de produits mis dans une poubelle ne constitue pas un vol, comme l'a rappelé la justice en 2015, la Cour de cassation, mais, en revanche, le fait de pénétrer dans une propriété privée peut toujours attirer des ennuis. Il est ainsi arrivé que des glaneurs soient assommés par des vigiles de s'en aller ou qu'on leur envoie à la police. Il y a eu des confiscations de cartes grises, des amendes pour contrôle technique défaillant. Continue Charlie. Après, quand ça arrive, on est solidaire des conducteurs. Madame Mouina, merci beaucoup pour le 4e mois d'abonnement et pour l'encouragement aussi. Après 21h, donc, le glanage, toutes les tournées se retrouvent au local pour le partage. Sur une grande table de 15 mètres, chacun dispose sa collecte rangée par catégorie de produits, fruits et légumes, pizza, laitage, fromage, pain, pâtisserie, viande, poisson, présentés comme sur une table de banquet. Charlie remercie ses glaneurs pour cet excellent travail d'équipe, invite alors les conducteurs d'abord à choisir 9 produits chacun, puis les glaneurs qui en prennent 4. Donc manifestement, les conducteurs de voitures sont un peu privilégiés. Moi, ça m'a un peu choqué, mais bon. Donc 9 produits, 4 produits. Et puis, une fois que tout le monde a pris ses produits, eh bien, tout le monde peut se servir tranquillement sur ce qui reste. Voilà. Dans le respect, on rigole, on se charrie, ça rigole. Voilà. Notamment quand une glaneuse ouvre un sachet de gambas qui était un peu dépassé, ça pue, ça rigole. Vous inquiétez pas, madame, dit la glaneuse qui vient d'ouvrir le sachet de crevettes à la journaliste. Ça fait des années qu'on mange dans les poubelles de la société de consommation et on n'est jamais mort. 12 Zouzous, l'article que je trouve intéressant là, est à lire dans La Croix de ce matin, du 19 juillet, pages 5 et 6. Voilà. Salut Janvier San, wesh à toi aussi. On continue ? Les Français. Les Français qui partent en vacances, ou plutôt les Français qui ne peuvent pas partir en vacances. C'est la une de l'Humanité ce matin avec cette photo de cette maman très digne qui dit « Moi, je refuse que mon fils puisse pas partir en vacances, qui se sacrifie à trouver les quelques dizaines d'euros nécessaires à l'envoyer dans une colonie, je crois, elle-même qui ne part pas en vacances. » Et Luma qui en profite pour se pencher sur ces Français qui ne partent pas, jamais parfois, en vacances, rattrapés par la hausse des prix notamment, mais il n'y a pas que l'inflation, hein. Des millions de Français, et je sais qu'il y en a dans le chat, ne partent pas en vacances cet été. Les aides restent insuffisantes pour les plus modestes. C'est quoi les vacances, dit Dr. Wux83 à l'instant dans le chat. Édito d'Alexandra Chaignon à ce propos. Très chères vacances. Selon les dernières études, 4 Français sur 10 ne partent pas. Pas du tout en vacances. On ne parle même pas des vacances d'été. Hein. Ne parle pas en vacances. Et vous êtes nombreux dans le chat à être dans ce cas. Face aux vacances, constat de l'Humanité, les inégalités demeurent dans notre pays et s'accentuent même. Car les plus modestes vont aujourd'hui moins souvent en vacances qu'il y a 20 ans. Je répète cette phrase. Les plus modestes en France aujourd'hui partent moins en vacances qu'il y a 20 ans. On n'a pas progressé. On a régressé. Les personnes ayant un revenu inférieur à 1285 euros étaient 41% à partir en 2002. Elles ne sont plus que 37% en 2022, d'après l'Observatoire des inégalités. Des chiffres élevés pour un droit fondamental reconnu en 88 dans une loi de lutte contre les exclusions, dont le rôle social majeur des vacances, c'est important, n'est pourtant plus à démontrer en termes de cohésion sociale, de mixité. Sauf que la défense du droit aux vacances de qualité pour tous est loin d'être une priorité politique. Le tourisme social et familial en France, on ne sait plus ce que c'est l'Humanité qui accuse, à un autre moment dans l'article, les politiques dans leur ensemble d'avoir totalement abandonné en fait ce combat pour que un nombre maximum de Français puissent partir en vacances, quel que soit leur revenu. Je vous lis parce que je suis sûr qu'il y a du vécu là. Ouais, Captain Balek, 6 ans en vacances, au RSA. Malade, entre parenthèses. Force à toi, Captain Balek. Après, il y a des gens qui ne partent pas en vacances, c'est un choix. Hein. Qui n'est pas lié à la question des revenus. Hein. Ça, c'est autre chose. Nebjis, perso je gagne pas trop mal au niveau du salaire médian, mais étant parent célib, les parents c'est pas trop pour moi, alors j'imagine avec le SMIC c'est mort. Ici on part en vacances une semaine, mais on a 2 SMIC pour 2 et on s'y est pris beaucoup à l'avance. À mes cases, j'ai l'opportunité de partir cette année et pour moi c'est vraiment une chance et un luxe. Sacha Pka, j'ai trouvé une combine, je suis animateur en colonie de vacances. Ouais, c'est un boulot, hein, c'est crevant. Hein. Cet été, on part en Espagne. Je te souhaite un bel été. Mais tu vas donner, hein, c'est épuisant. Sympa, mais épuisant. Voilà, il y a plein de gens qui partent pas en vacances. Fidji, jamais parti en vacances. Je bosse depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 26 aujourd'hui. Très nombreux. Je le savais parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Voilà. Donc vous avez un dossier dans l'Humanité ce matin qui nous explique que l'inflation, la hausse des prix, notamment des carburants, vient renforcer en plus cette exclusion d'une partie des Français des vacances. Qui nous emmène aux tracances. Alors je ne connaissais pas ce néologisme jusqu'à cet article du Parisien sur ces Français de plus en plus nombreux à ne pas déconnecter, à emmener leur travail et notamment leurs ordinateurs en vacances pour y consacrer un peu de temps chaque jour. Voilà. Je ne comprends pas ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui partent avec leur ordinateur, leur PC, leur tablette, leur table de mixage, leur micro, leur caméra en vacances. Voilà. Écoutez, je peux y mettre toute l'énergie intellectuelle que je peux. Ça me semble insane. En fait, je pense que c'est un signe de... Enfin, il y a un problème mental à ce niveau-là. Je pense que c'est d'ordre de la psychiatrie. Comment l'expliquer ? Moi, ça me passe au-dessus de la tête. Vous connaissez ma capacité de compréhension par rapport aux autres. Enfin, j'essaie de m'intéresser un peu à tous les genres de vie, tous les modes de vie, tous les styles de vie. Je ne juge personne, mais ça, les gens qui partent avec des ordinateurs en vacances. Allô, quoi. Comme disait une philosophe du siècle passé. Voilà, je ne comprends pas ça. Lisons quand même l'article pour essayer de comprendre. Oui, un gros problème mental, Cyril. On est d'accord. Un signe de démence avancée. Mais oui. Lisons. Arnaud est en Normandie, mais loin de Rouen. La semaine prochaine, son périple estival avec toute sa famille le mènera en Espagne. Ce spécialiste en marketing numérique n'est pourtant pas en vacances. Ma compagne, qui est institutrice, avait envie de partir les 2 mois. Ça me convient bien. Il me suffit une connexion Wi-Fi pour suivre tous mes projets. Ce salarié d'une société de services et d'ingénierie en informatique est en tracances, donc travail-vacances, ok. Néologisme pas encore homologué par le Larousse ni par le Robert, encore moins par l'Académie française, qui appartient à ces travailleurs pas vraiment en vacances. J'en ai quelques exemples autour de moi. J'ai des copains qui sont dans le quartier, là, qui sont géographiquement en vacances, mais qui travaillent toute la journée. Bon, ben peut-être que c'est quand même plus sympa. Donc il y a des sondages qui éclairent un petit peu tout ça. Alors, l'humanité dit que parfois c'est pour le meilleur. Hein, parfois c'est pour le meilleur. Ça permet à des gens de partir en vacances alors qu'ils ont encore du travail à faire. Hein, et parfois c'est pour le pire. Vous imaginez bien avec, notamment pour les salariés, pour les gens qui ne sont pas indépendants, eh bien, ce fil à la patte qui les relie à l'entreprise, voilà, avec un employeur qui parfois, pas toujours, eh bien, va abuser de ce fil à patte en appelant un peu à n'importe quelle heure, le matin, le soir, sous prétexte que la personne est joignable et éventuellement a pris son matos pour bosser son ordinateur. Alors, certains vont peut-être me dire qu'il y a un droit à la déconnexion qui est garanti par la loi. Le problème, nous explique l'humanité, c'est qu'effectivement, depuis une loi de 2017, dans le Code du travail, vous avez un droit effectif à la déconnexion, sauf qu'en fait, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de traduction concrète de ce droit. Donc c'est un droit, c'est un principe qui est affirmé, mais en fait qui n'est pas défini, voilà, et qu'il est très difficile de mettre en œuvre. Voilà. Et vous, votre expérience par rapport au télétravail ou aux tracances ? Il y a tous ceux qui sont indépendants, je le vois, hein, comme Flying Titrit, en freelance, je n'ai pas la possibilité de décrocher, par exemple. Il y a Svaltorg74, dont je valide à 1000% la vanne, qui nous dit, moi, je préfère le va-caille, être en vacances sur le lieu de travail. Ça s'appelle une masterclass, ça. Svaltorg, ça s'appelle une masterclass. C'est magnifique, ce que tu viens de faire. C'est très, très beau, ce que tu viens de faire. Je kiffe. Poum, monsieur Etienne, êtes-vous accro au travail ou à l'actualité ? Réponse, oui. Difficile à nier. Vous faites quoi en ce moment ? Me demande Hachiko, c'est une sorte de travail, non ? Oui, oui et non, parce que pour moi, c'est pas vraiment du travail, c'est surtout du plaisir d'être avec vous. Bande de beaux gosses et de belles gosses. Comme le dit Père Powell, les gens qui pourraient aller à la piscine et préfèrent travailler, vraiment, c'est dingue. Mais je suis d'accord, c'est n'importe quoi. Afpucci confirme, c'est vrai que dans mon équipe, il n'arrive plus à décrocher. Pourtant, avant, nous n'avions ni téléphone portable, ni ordinateur, et tout se passait bien. Et oui. Ah, Chris, par exemple, est en freelance et se déconnecte en vacances. C'est une question d'organisation. Ok. Waouh. Léla Mantin. Écoutez le témoignage de Léla Mantin. Mon employeur me demande de faire un truc pour le jour même. Alors que je suis en congé, il se permet de me contacter sur ma boîte perso. Je lui réponds par mail, réponse automatique, il est aussi en vacances. Oh putain. Gaël San TV, ma femme ne décroche jamais. Actuellement, on est en vacances et elle est en rendez-vous téléphonique depuis 1 heure. Ça, je ne comprends pas. comprends pas. Si je faisais ça à Hélène, hein, si je imagine, si je streamais tous les matins de vacances, par exemple, mais je comprendrais ça, c'est une réaction de colère. Comme c'est fou, c'est fou, ça, c'est fou, c'est fou, n'importe quoi. Oh, c'est dingue. Il y a Jojo qui dit que dans certains cas, la déconnexion est forcée. J'ai travaillé dans une boîte. Si jamais il constate que tu travailles trop pendant les vacances, il verrouille tes accès pour forcer la connexion. La déconnexion.
Oh,
c'est incroyable. Waouh, Locon. En arrêt maladie, mon chef me fait des mails SMS. Je l'ignore dans le cadre du droit à la déconnexion, mais ils ne le sont pas appréciés. Locon. Eh ben dis donc, ton chef c'est un... Je cherche une rime avec Locon mais je trouve pas. Bon, la prochaine fois peut-être. Allez, il me reste un article je crois. Certains ont trouvé des rimes. Allez, une bonne nouvelle pour terminer. On finira avec ça avant un joli raid. On ira visiter dans un instant... le travail d'un streamer, d'une streameuse qui donne tout sur Twitch, mais qui n'a pas encore une grosse communauté, on va lui donner un petit coup de pouce. C'est toujours des moments sympas. Mais d'abord, cette belle nouvelle, je trouve, à la une des échos, je ne l'avais lu nulle part ailleurs. Éolien, 2.1, gain surprise à 8 milliards pour l'État. Traditionnellement subventionné, normalement ça coûte les énergies renouvelables et surtout l'éolien vont rapporter plus de 8 milliards d'euros au budget de l'État en 2022 et 2023, vous vous rendez compte ? Manne imprévue liée à l'envolée des prix de l'électricité consécutif au conflit ukrainien. À l'avenir, les gains pour l'État pourraient être encore plus importants. De quoi s'agit-il ? L'article des Échos est vachement clair. Alors, pour la première fois en 2022, et puis ce sera le cas en 2023 aussi, les énergies renouvelables, et notamment l'éolien donc, ne vont pas alourdir le budget de l'État, mais deviennent une source de profit pour les finances publiques. Waouh ! Selon les estimations publiées par la Commission de régulation de l'énergie, les énergies renouvelables devraient rapporter au total 8,6 milliards d'euros. Au budget de l'État en 2022 et 2023. Pour le secteur lancé grâce au soutien massif de l'État, en particulier grâce au contrat d'achat d'électricité à prix fixé sur une très longue période, c'est une révolution, pas moins. Caroc, bonne journée. Bon courage. En 2022 et 2023, donc, les Échos font le point sur les recettes. Papa, on a parlé de plus de 8 milliards recettes surprises. Pour les finances publiques, qui provient de la mise en œuvre des contrats d'achat d'électricité passés avec les producteurs d'énergie renouvelable, conçus pour garantir un prix de rémunération fixe aux producteurs pendant 15 à 20 ans afin de les inciter à investir. Qu'est-ce qu'on fait pour inviter les investisseurs à mettre des sous dans l'éolien ou dans le solaire, eh bien on leur propose sur 15 à 20 ans des prix fixes de rémunération de l'énergie, de l'électricité qu'ils vont pouvoir vendre. Comme ça, ils ont un cahier des charges qui est clair, ils savent où ils vont. Voilà. Fixe, par exemple, en moyenne, entre 81 euros et 137 euros le mégawatt-heure. Fixe. Quand les prix s'envolent, ben les producteurs d'électricité, là, ben ils vendent toujours au même prix, c'est fixe. C'est qui gagne des sous ? Bah c'est l'État qui est forcé d'acheter cette électricité qui d'habitude lui coûte de la thune, qui est subventionnée, mais qui là, est en dessous du marché, qui a explosé, et bah, voilà la thune, voilà la moula. Ces contrats prévoient une compensation financière pour les producteurs lorsque le prix de marché sont inférieurs à ce prix cible, hein, ce qui pèse sur les finances publiques, mais en retour, inversement à l'État est prévu quand les prix de marché sont supérieurs au prix de rachat garanti. Les Échos expliquent ce que je viens de dire, mais un peu moins bien je trouve. Là, par exemple, je vous disais, les producteurs vendent à entre 81 euros et 137 euros le mégawatt-heure, sauf que là, le marché aujourd'hui, il est entre 300 et 600 euros. Voilà, et ça rapporte des sous. Donc, c'est essentiellement l'éolien. La filière photovoltaïque continue de peser sur les charges de services publics à hauteur de 0,9 millions d'euros, donc c'est rien du tout, compte tenu du poids des contrats historiques qui étaient conclus au lancement de la filière, avec un prix du mégawatt-heure qui était en fait acheté beaucoup plus cher, aux alentours de 300 euros. Voilà pour l'explication. Voilà. Alors, ne nous enflammons pas, surtout en ce moment. Le secteur est cependant encore loin d'avoir remboursé le total des subventions reçues de l'État, 43 milliards depuis 2003. Mais, On va finir sur cette belle note positive dans l'actualité. Cette inversion de la tendance qui intervient dans un contexte particulier, la guerre en Ukraine, qui provoque les tensions sur le marché de l'énergie, constitue une preuve de plus qu'il faut accélérer le développement des énergies renouvelables, indispensable pour renforcer par ailleurs la sécurité d'approvisionnement et atteindre les objectifs de neutralité carbone de la transition énergétique. Let's go sur les énergies renouvelables. C'est la conclusion de cet article des Échos. Elle n'est pas belle la vie ? 2h47 de stream. Let's go pour la piscine. Moi tout seul, je ne vous invite pas. Vous êtes 3577 ce matin, à l'instant T. Là, il est hors de question que je vous emmène dans la piscine. Parce que vous allez me faire déborder le bousin. Vous allez faire peur aux enfants. Hein. Oh, dommage, ce serait tellement cool. Vous imaginez ? 3500. Vous imaginez la vidéo qu'on ferait ? Une dinguerie, oui. Ah. Ah, ce serait super. Ouais. Et faire pipi dedans. Merci, Sadine Live. Pipi dans ma piscine. ce serait... On ferait un stream. On ferait un stream tous dans la piscine pour Twitch. On pourrait peut-être battre le record du monde de viewers connectés là. Si vous venez tous dans la piscine là, hein, oh là là, ce serait quelque chose ça. Voilà. Ouais, et j'écrirai les noms des subs sur mon corps. Ouais, je sais pas où vous trouvez toutes ces bonnes idées. C'est pas mal ça. Où est-ce que vous trouvez toutes ces bonnes idées? L'horoscope s'est passé depuis longtemps. Golden shower, quelque chose. Les amis. Merci, mille merci pour plein de choses. D'avoir été là ce matin, d'avoir échangé avec moi sur l'actualité, d'avoir supporté mon humour de vieux machin, d'avoir été aussi, d'être aussi gentil tous les matins avec Malo quand il vient de faire son quiz Pokémon et de lui envoyer tous ses subs, parce que les subs pendant la chronique de Malo, c'est pour Malo. Il va bientôt pouvoir prendre son indépendance financière et son appartement grâce à vous. Et il va avoir 6 ans à la fin du mois d'août, donc bravo quand même, vous êtes incroyable. Et on va faire un raid, je l'espère aussi sympa que celui d'hier, Ronan. Me rappelle à l'instant que le raid vers un cycliste qui fait 1000 bornes en ce moment en France et qui stream en pédalant incroyable était vraiment sympa. C'est vrai que le jeune homme était étonnant. Donc on va faire la même chose. Proposez-moi dans le chat maintenant des noms de streamers, des streameuses qui sont en live actuellement mais qui n'ont pas encore beaucoup de viewers, une petite communauté pour lui faire de la pub comme ce qu'on fait tous les jours. D'ailleurs, je vois que des propositions ont commencé à arriver. Je vais aller voir. Merci pour tous ceux qui ont soutenu aujourd'hui. Qu'envoyer des subs, des beats. Merci à ceux qui ne peuvent pas le faire. Voilà. Et qui sont là quand même et qui soutiennent la chaîne. Je vous mets une petite écran de pause avec de la musique. 2 minutes, histoire de trouver la destination du raid. C'est bien. Ouais, c'est bien, je la connais celle-là. Pages, The Way, Way Back. La petite musique, 2 minutes, chrono. Dans 2 minutes, on fait un raid tous ensemble. C'est humainement toujours un moment sympa. Et une petite pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Autre façon de soutenir. À tout de suite pour le raid. Let you go. Just as I let you go. I'll pull back in by your hair on my coat. And all those songs we hate seem to be the DJ's favorite ones today. Not proud of how I hear, but how I handle things doesn't change what you did. Why'd you make me choose? Alors, ça propose quoi? Yes, j'ai trouvé grâce à vous et vous avez été plusieurs, nombreux même dirais-je, à me proposer ce streamer que j'ai déjà raid dans le passé, mais c'est vrai qu'il fait un travail assez étonnant. Voilà. Et on va enchaîner de la guitare à... La guitare. Ah ah, ça ont sûrement déjà deviné. 28 viewers, 32 viewers sur ce stream actuellement. Woody Lutry, c'est un luthier. Il fabrique de magnifiques instruments en live devant vous. Ici, une guitare, a priori, qui va être utilisée lors du prochain The Event, me dit-on. C'est un musicien aussi, je le sais. Let's go, je vous lance ça. Et c'est un garçon super sympa, par ailleurs. Un vrai passionné. Ça part dans quelques secondes. Merci encore. Bonnes vacances. Bon truc vacances, là. J'ai oublié le truc de l'humanité. Merci d'avoir été là ce matin. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. C'est parti pour le raid dans quelques secondes et je vous dis à demain pour la matinée Étienne avec plein de journaux, des articles, j'espère, super sympas. Raid dans 5, 4, 3, 2, 1. Merci pour tout. À demain. Woody Lutry, dites-lui bonjour de ma part. Ciao, ciao.